Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La sécurité, enjeu central de la campagne présidentielle, c'est ce que pensent 8 Français sur 10 de ce thème qui se classe en deuxième position derrière le pouvoir d'achat. Selon les personnes interrogées dans un sondage Odoxa pour le Figaro, ce samedi, c'est le maire d'une petite ville du Calvados qui a été agressé à coups de matraque alors qu'il tentait d'arrêter un rodéo sauvage en cours dans sa ville. Le préfet du Calvados a porté plainte au nom de l'État. On entendra le témoignage de cet élu qui a été agressé. On verra aussi que les refus d'obtempérer se multiplient sur l'ensemble du territoire. Les policiers de Bordeaux ont été obligés d'ouvrir le feu samedi soir pour arrêter un chauffard qui leur fonçait dessus. Le conducteur du véhicule a été blessé, le passager a réussi à prendre la fuite. L'arrestation d'un baron de la drogue, Sofiane Ambly, a été arrêté au Maroc dans une clinique de Tanger où il se faisait soigner après avoir été agressé dans la rue. Ce gros bonnet de la drogue était en cavale depuis le mois de mars. Il était impliqué dans plusieurs affaires de trafic de stupéfiants. Faut-il supprimer le permis à points ? La question revient dans le débat à la faveur de certaines déclarations politiques. On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. 72% de oui à la question que nous avons posée. On entendra vos réactions contrastées sur un sujet hautement sensible puisqu'il est lié à la sécurité routière. On estime que plus de 700 000 personnes, conduisent aujourd'hui en France sans permis. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron visite dans une entreprise de robotique à Saint-Étienne. Il a annoncé un plan de 800 millions d'euros d'aide pour la fabrication de ces robots qui font appel à l'intelligence artificielle. Et puis le rapport de RTE, Réseau Électricité Français, qui préconise la construction de nouveaux réacteurs nucléaires pour assurer notre souveraineté énergétique, mais tout en continuant à miser sur les énergies renouvelables. À noter d'ailleurs que les prix du carburant baissent un peu cette semaine, alors que le gouvernement a annoncé une aide exceptionnelle de 100 euros pour 38 millions de Français la semaine dernière. Voilà, on débat de tous ces sujets d'actualité avec mes invités ce soir. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Consultant CNews. Prisca Thévenot, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole de La République En Marche. Un avocat nous a rejoint, Maître Golnadel. Bonsoir Maître.
Et Ferrari.
Et un ancien gendarme, et quel gendarme, le fondateur du GIGN, Christian Proutot est là. Bonsoir,
bonsoir
cher
bien.
Christian Proutot. On va tout de suite revenir sur le sujet central de la sécurité. 82% des Français pensent que ce sera l'enjeu majeur de la présidentielle. On fait le point avec ce sujet de Kinson et on en débat ensuite.
La sécurité, un thème majeur de la campagne présidentielle. Selon un baromètre fiducial Odoxa, c'est la deuxième préoccupation des Français juste après le pouvoir d'achat. Son enjeu sera déterminant dans le choix de 82% des Français en âge de se rendre aux urnes, quel que soit l'électorat. Pour 36% des Français interrogés, la baisse de la délinquance du quotidien est une priorité. Et si aucun des candidats déclarés ou potentiels ne suscite la confiance d'une majorité des Français, le baromètre place Marine Le Pen et Emmanuel Macron en tête des personnalités. Xavier Bertrand et Éric Zemmour se partagent la troisième marche du podium. La gauche, traditionnellement considérée comme fragile sur le sujet, seuls 20% des sondés font crédit à Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo.
Voilà la sécurité, enjeu majeur de la présidentielle. On en débat ce soir dans Punchline, c'est parti.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est 18h sur Europe 1 et sur CNews. On évoque la question de la sécurité. Samedi, un maire d'une petite ville de Calvados, 340 habitants, a été agressé par des jeunes. Il avait tenté de s'interposer lors d'un rodéo urbain dans sa commune. Une cinquantaine de jeunes à scooter et à moto qui bloquaient toute la circulation. Écoutez son témoignage, recueilli par Marion Delpech et Mathilde Ibanez.
Les blessures sont encore douloureuses. 24 heures après le coup de matraque qu'a reçu le maire de Folc dans le Calvados, alors qu'il tentait de stopper un rodéo sauvage dans sa commune.
Au niveau du visage, la lèvre, le nez, et je pense que j'avais la main comme ça et que ça a tapé la main en même temps, donc la main gonflée. Ouais.
À quelques mètres de chez lui, une cinquantaine de jeunes s'étaient rassemblés pour rouler à vive allure sur leurs scooters et motos, allant jusqu'à bloquer la circulation.
Je suis arrivé plus haut, leur dire d'arrêter, sinon les gendarmes étaient là dans un quart d'heure. Et puis je suis reparti, je suis descendu là pour venir chez moi. Et là, il y avait des jeunes d'arrêter ici. Donc, je descends de ma voiture. Je n'avais pas fait 2 mètres que je m'étais pris de coups de matraque. Donc, je n'ai pas eu le temps de discuter avec.
Le maire pointe également du doigt l'impunité des fauteurs de troubles.
Le problème qu'il y a, c'est que les gendarmes ne peuvent rien faire. Ils n'ont même plus le droit de les poursuivre. Ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc, c'est la libre. Les jeunes font ce qu'ils veulent, en fin de compte.
Bruno Le Thuillier a porté plainte. L'enquête est confiée à la gendarmerie.
Voilà, et la préfecture du Calvados a aussi décidé de porter plainte. Christian Proutot, est-ce qu'il y a une impuissance totale des pouvoirs publics? Alors là, le pauvre maire a tenté de s'interposer, il a été pour ses frais, il a pris des coups de matraque. On n'arrivera pas à venir à bout de ce phénomène des rodéos urbains, en fait?
Je pense qu'on a au moins l'exemple que ce n'est pas que là où on pensait que ça pouvait être. Parce que vu l'endroit, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un rodéo, en plus avec apparemment beaucoup de jeunes, ce qui pose le problème des raisons qui conduisent d'un coup ces jeunes à se réunir pour faire se livrer à des exercices souvent dangereux, hein, et se réunir comme s'il y avait une sorte de désœuvrement et que cette nouvelle activité qui est le rodéo devenait tout d'un coup l'exercice qu'il fallait absolument faire pour exister.
C'est une mode pour vous, c'est ça?
Moi, je pense que c'est une mode.
Ok, mais pourquoi on n'arrive pas à la juguler, cette mode?
Mais la mode, on n'arrive pas à la juguler parce qu'on ne fait pas assez de saisie de véhicules, parce que je crois que dès qu'on touche à ce à quoi ils tiennent le plus, je sais que j'entends dire qu'il y a pas mal de véhicules volés, mais il n'y a pas que des véhicules volés, sinon ça se saurait. Il faudrait que la justice ait la possibilité de saisir directement les véhicules à partir du moment où les gendarmes ont interpellé.
Et Christian Proutot, est-ce que c'est vrai ce que dit le maire là qu'on vient d'entendre, que les gendarmes comme les policiers n'ont pas le droit d'intervenir pendant les rodéos,
Ils n'ont pas le droit d'intervenir si l'intervention peut amener quelque chose de plus grave que ce qui se produit, c'est-à-dire un accident.
Donc jamais, ils ne peuvent jamais intervenir.
On pourrait, je pense, bloquer, puisque là, c'est dans des cas un peu plus pratiques, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est qu'on pourrait bloquer les routes, mais le temps, comme a priori le maire a choisi dans un premier temps, ce qui est logique, parce que je l'avais entendu dans d'autres circonstances, et effectivement, il connaît bien sa commune et tout, donc il a joué dans un premier temps la conciliation, avant de prévenir les gendarmes. Et on ne lui a pas laissé le temps de s'expliquer.
Maître Golnadel, c'est un problème de justice ou c'est un problème, encore une fois, d'intervention des forces de l'ordre?
C'est un problème de société. C'est purement et simplement un problème de société. Là, vous avez affaire à un maire courageux qui, constatant d'ailleurs la carence d'État, essaye de faire quelque chose. Et puis, dès l'instant où il fait quelque chose, il prend des coups de poing dans la figure. Moi, j'ai défendu, il n'y a pas très longtemps, une affaire qui avait défrayé la chronique. Un maire aussi, qui, compte tenu de la carence de la police, c'était par rapport à des gens de voyage qui occupaient illégalement un espace, et bien, il est sorti, il s'en est occupé, il s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel. Parce que ça s'était mal passé.
Quand vous dites qu'il s'en est occupé, il s'est bagarré, quoi.
Ah, il s'est bagarré. Il est même sorti, lui, avec un katana. C'est pour ça que ça a défrayé un peu la chronique. Un katana, un sabre.
D'accord. Mais forcément.
Non, mais c'était... Oui. Ça montre, si vous voulez, l'exaspération, parce que les gens de la cité se plaignaient beaucoup. Il y a un plaisir de la transgression. Il y a un plaisir de la transgression impunie, et donc on arrive à ces situations-là, hein, très, très, très sincèrement. Alors, compte tenu de cela, il ne m'étonne pas du tout que les Français considèrent maintenant que l'insécurité est un problème majeur, mais c'est aussi c'est une sorte de révolution culturelle, hein, parce que c'était un sujet vulgaire. C'est un sujet qu'on n'osait pas justement placer parmi les premiers, parce que non seulement c'était vulgaire, mais c'était même quelque part sulfureux. Donc maintenant, les gens parlent de l'insécurité, les gens parlent de l'immigration, qui est un sujet quand même assez lié. Donc voilà, on en est là maintenant.
Jusqu'à Thévenot, est-ce que le gouvernement est dans l'incapacité de faire cesser ces rodéos urbains? Il y a une loi qui a été votée en 2018, elle semble inopérante à l'heure où on se parle.
Alors effectivement, il y a une loi qui a été votée en 2018, qui est une loi anti-rodéo, parce que jusqu'à présent, les rodéos n'étaient pas considérés comme un délit. Donc c'était très compliqué de pouvoir poursuivre ceux qui faisaient des rodéos, mais également de saisir, parce que cette loi permet de saisir les véhicules. Maintenant, le sujet n'est pas... Alors depuis que cette loi a été votée, le nombre d'arrestations pour cause de rodéo et de voitures saisies et de véhicules saisis ont énormément augmenté. Déjà, avant, on ne pouvait pas saisir, maintenant on le peut. Et les nombres d'arrestations ont été multipliés par 2. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on voit que ça continue, parce que c'est un sujet bien plus profond. Et là, effectivement, se pose la question de comment arrêter ces personnes sans qu'il y ait plus de dégâts, comme vous le disiez effectivement avant, des dégâts collatéraux, si je puis me permettre. Et donc là, alors là, c'est une petite commune, mais souvent, ça a lieu dans des grandes communes. Il faut aussi qu'il y ait les compétences des communes qui soient mises à disposition de cette lutte anti-rodéo, notamment avec de la vidéoprotection. Parce que si on ne peut pas les arrêter sur le coup, parce que pour des raisons de sécurité publique, il faut qu'on puisse investiguer, qu'on puisse les chercher et qu'on puisse les repérer.
Des centres-villes, là.
Exactement. Mmh. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut renforcer la présence sur place parce que souvent, et là, on voit un cas très précis, et merci de le montrer, de ces maires de petites communes, et il n'y a rien de péjoratif dans petites communes, qui en fait gèrent énormément de choses et qui ne peuvent pas tout faire. Il faut qu'il y ait un renfort de bleu sur le terrain à leur quotidien parce que, et que ça ne vienne pas des grandes villes parce que le temps qu'ils arrivent, on voit bien que c'est trop tard.
Et on voit que la violence, elle est contre ceux qui portent les uniformes ou ceux qui représentent l'État comme tout les élus, hein, Christian Proutot. C'est tout le monde, tout ce qui représente l'État.
Non, mais bien évidemment, mais à partir du moment où vous les empêchez de jouer, eh bien, ils ne sont pas contents. Donc, ce qui est étonnant, c'est que là, on va tomber sur un réseau de, parce qu'ils se réunissent, ils font des compétitions entre eux. Il y a tout un sport autour de ça qui vient de plusieurs années et ils étaient apparemment une cinquantaine. Donc il va se produire quelque chose. Mais vous
parce
évoquiez les arrestations,
beaucoup.
Vous
ils avez raison. Ils mettent tout ça sur les réseaux sociaux aussi. Ils
oui,
se
voilà.
filment,
mais c'est ça le jeu, sociaux, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est montrer ce qu'on sait faire, parce que faire du wheeling, c'est pas évident. Donc on fait son.
Wheeling, ça veut dire les roues. Hein,
rouler sur une roue.
J'explique l'anglicisme.
Voilà. Mais sur les arrestations, vous avez raison de le souligner, on est à près de plus de 40 000, je crois, là. Il y a eu 40 000 interpellations. Mm-hmm. Pardon. C'est beaucoup. Problème, c'est que quel est le suivi réel? Qu'est-ce qu'on peut donner à ces gens lorsque, effectivement, on a pu saisir la moto, qui peut-être des fois n'est pas à lui, etc. C'est assez compliqué. Mais il y a un problème de désœuvrement, manifestement, et une espèce de compétition entre bandes. Ça, c'est certain.
Et Jean-Claude Dacier, votre
c'est
avis
amusant,
là-dessus.
En plus, ils s'amusent. Ah oui. C'est drôle.
Dans leur esprit,
ils
ça...
percent les tuyaux d'échappement, ça fait un bruit d'enfer. C'est vrai que c'est pas agréable pour les
vous
voisins.
Vous l'avez jamais fait ça quand vous étiez jeune?
Non. Non. Non, même la moto, j'étais pas très...
Avec les mobilettes, ça se fait.
Je préférais les quatre roues
oui.
que les deux.
Il y avait quand même une mobilette tunée, non?
Avec les mobilettes...
Christian Proutot.
Non, mais il faut être honnête. Pareil. Avec les mobilettes, on essayait d'avoir le plus de bruit possible.
C'est ça, oui. Voilà.
Donc, on
ne va
pas passer pour des anges.
Temps. Mais enfin,
Jean-Claude,
bon,
là, on n'est pas dans le même cas de figure.
On n'est pas tout à fait dans le même exercice. Et ce qui nous manque, semble-t-il, je pense que c'est la clarté du discours... de ce qui du ministre Darmanin, de ce qui est permis ou autorisé aux forces de police. Monsieur Godon nous expliquait du syndicat Alliance que sur les fiches de police, il était très clairement indiqué que les policiers ne devaient pas intervenir sauf intervention facile, aisée, ne posant pas de risque de sécurité. Et donc dans ces conditions, même si la loi qui a transformé ces rodéos en délit obtient quelques résultats, manifestement c'est insuffisant, puisqu'on en a quasiment, sinon tous les jours, du moins on pourrait en parler,
tous les week-ends,
quasiment tous les jours. Il y a eu un mort et un blessé grave, je crois, le mois dernier, ou la semaine, ou les 15 derniers jours. Donc c'est un problème sérieux, et manifestement les jeunes gens n'ont pas l'air de s'inquiéter des conséquences que pourrait leur valoir leur prestation. Je rappelle simplement qu'en Angleterre, il y a une loi qui a été votée je ne sais plus quand, qui met les policiers à l'abri et qui leur demande... C'est la différence. D'intervenir. Et alors, même d'intervenir, si c'était nécessaire, en tapant avec leur voiture les motards en question. Et s'il y a des blessés, chacun prend ses risques. Ils sont protégés juridiquement. En France, je crains que ce ne soit pas tout à fait la même situation. S'il y a un problème, eh ben, c'est aussi les policiers qui se retrouvent devant l'IGPN.
Après ça, Camille, vous voulez répondre de la
oui,
République
très,
en marche.
Très rapidement, je suis effectivement d'accord avec vous. Collons à l'actualité. Et on en parlait la semaine dernière, je pense, des Dalton. Ces jeunes-là qui se déguisaient en Dalton.
Ils viennent d'être arrêtés.
Et voilà, et ils ont été interpellés justement suite à de la vidéo.
Dalton, parce qu'ils étaient déguisés comme voilà. les Dalton, hein,
justement,
pour préciser à nos auditeurs.
Justement, il y a eu des difficultés. C'est un groupe de rap qui se fait appeler des Dalton, qui se déguisent en plus comme ça. Donc ils sont très connus. Donc ils ont pu, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de la vidéosurveillance, mais par ailleurs, être interpellés. Je crois que le chef a été interpellé et Gérald Darmanin a rappelé à cette occasion son plein soutien aux forces de l'ordre dans ce genre d'enquête et en disant effectivement saisissez-vous de cette loi qui sauf erreur de ma part va être enrichie est en cours d'enrichissement pour venir justement s'adapter aux réalités encore plus flagrantes.
Christian Proutot, effectivement C'est une mode maintenant, c'est devenu un concours.
Oui, c'est une mode, et puis les réseaux sociaux, on le dit malheureusement à l'envi, je pense qu'il y aura encore d'autres occasions d'évoquer le mal que peut représenter cet outil merveilleux qu'est Internet, et en particulier les réseaux sociaux, qui peuvent être, qui transportent le pire et le meilleur. Et malheureusement, quand c'est le pire, on voit ce que ça donne, parce que c'est effectivement une compétition. C'est pas, on pourrait pas appeler ça des bandes, ils se tapent pas dessus, mais c'est savoir quel est celui qui a les meilleurs motards, qui font les mêmes figures. Et là, faut pas oublier que c'est de nuit aussi. C'est pas évident pour les services de gendarmerie ou de police d'intervenir la nuit.
Et alors, est-ce que les drones dont parle beaucoup Jean-Claude Dacier peuvent aider dans ces cas de rodéo urbain ou pas?
Mais dans le cas des rodéos urbains, oui, parce que la visibilité permet, grâce aux caméras à haute sensibilité, qui permettent de voir mieux la nuit. Mais là, par exemple, là, ça fonctionnerait pas, là. D'accord. Mais d'une certaine manière, il faudra arriver, je pense, à l'autorisation des drones. Je sais que c'est encore en discussion, parce qu'il y a des opposants.
Ça a été voté à l'Assemblée.
Voilà. Donc, ça y est, c'est voté.
Ça a été voté à l'Assemblée, pas au Sénat.
Ah oui, c'est pas encore
Maître
au Sénat.
Maître Golnadel.
Encore une fois, pourquoi je dis que c'est un fait de société, c'est que, manifestement, là où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est-à-dire que le goût de l'interdit, le goût de la transgression, le goût de la transgression qui est impunie, le fait de, pour parler poliment, d'embêter les voisins parce que c'est bruyant, c'est ça qui donne le surcroît d'adrénaline. Sinon, bon, ça, je veux bien croire que ça, c'est drôle, c'est tout ce que vous voulez, mais le plus, il est là. Et à côté de ça, je veux bien croire qu'on a renforcé l'arsenal légal, encore que je ne sois pas au fait de cette situation juridique en ce qui concerne ce genre d'activité, mais on voit bien le décalage, comme pour beaucoup de choses, entre le droit et le fait, parce qu'évidemment, comme le préfet Poteau le disait, bon, on doit intervenir, sauf si le dommage est plus important. Et évidemment, si les types ne veulent pas se laisser prendre, évidemment que le dommage... Alors, que ce soit dans le domaine des rodéos, que ce soit dans le domaine du port du voile, que ce soit dans tous les domaines que vous voulez, l'État, pour préserver la paix sociale, ce qui est du court terme, préfère effectivement garder l'arme au pied.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, vous aurez la parole, cher Jean-Claude Dacier. On va continuer à parler de ce qui se passe sur la route, des automobilistes. Faut-il supprimer le permis à points? Une question qui a été relancée dans le débat public ce week-end. On vous a posé la question, puis je vous entendrai débattre de ce sujet. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec cette question. Faut-il supprimer le permis à points? Évidemment, votre réponse, nous vous avons posé la question sur le compte Twitter de CNews. Oui, 72%, non, 28%. Mais évidemment, il y a un peu de nuance à apporter à cette question un peu brute de décoffrage. On va évidemment faire le point avec ce sujet de Clémence Barbier, puis on va en débattre parce que je pense que les avis sont contrastés autour de la table. D'abord, le point avec ce sujet.
Pourrait-on se passer du permis à points? En France, plus de 11 millions de points sont retirés chaque année et les recouvrer coûte cher. Comptez 240 euros pour un stage de récupération de 4 points. Ce qui pousse certains à demander la suppression du système instauré en 1992, selon Benjamin Cuc, spécialiste de l'industrie automobile et mobilité.
C'est une punition permanente organisée par l'État, puisque rien n'est fait pour que les citoyens récupèrent facilement et rapidement leurs points, sinon passer par des stages, en plus d'une amende et une obligation de poser le jour de congé. Donc c'est quand même pas non plus la double peine, mais la triple peine.
De leur côté, les 40 millions d'automobilistes français sont partagés.
C'est une très bonne chose, parce qu'on prend des points pour un oui, pour un non. Pour ceux qui roulent beaucoup, c'est insupportable. Il suffit de faire un tout petit écart au-dessus d'un kilomètre heure et on prend un point.
Alors ça peut être pas mal. Par contre, il faut que tout le monde fasse attention sur la route, sinon ça va être une catastrophe.
En 2012, Marine Le Pen proposait déjà d'en finir avec le permis à points, promettant une sécurité routière moins punitive.
Christian Proutot, vous êtes ancien préfet, comme le rappelait Maître Golnadel. Est-ce que c'est une solution, c'est une possibilité de revoir le permis à points? Est-ce qu'il faut revoir plus généralement le code de la route ou pas?
Alors, il y a deux questions, donc. Revoir le permis à points, je pense que oui, parce que c'est vrai que la partie des gens qui sont concernés par les retraits de points, c'est des petites fautes. Et c'est l'accumulation de petites fautes. Je crois que, de mémoire, sur les chiffres que j'ai vus, sur les grands excès de vitesse, on a à 8%, je crois, de l'ensemble des points retirés, ce qui n'est pas beaucoup. Mais pour en revenir à la question de revoir le code de la route, c'est vrai qu'il y a tellement de circonstances pour se retrouver en faute par légère faute, non pas d'inattention, mais d'attention, parce que conduire sur la route, il faut regarder les autres véhicules, qu'il y a peut-être au niveau de l'enchaînement, par exemple, des limitations de vitesse, faire quelque chose d'un peu plus cohérent que ce que l'on voit régulièrement, et qui conduit forcément tout d'un coup à vous trouver à la faute, avec cette idée qui est désagréable par rapport à l'idée initiale du permis à points, qui était de faire chuter la mortalité sur les routes, que c'est fait là pour embêter les gens. C'est, par moment, on se pose la question si ce n'est pas le piège volontaire. Et ça, du coup, par rapport à l'idée qu'on devrait avoir du permis à points, ça fausse une bonne idée, quoi, qui au départ était le permis à points.
Mais, Maître Glanadel, vous avez un avis sur la question du permis à points ?
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je peux vous dire, en tous les cas, que je suis pour le châtiment sévère en matière de non-respect du code de la route. Les Français ne brillent pas par la discipline en automobile. Et le fait qu'effectivement on ait utilisé un petit peu la politique du bâton a réduit quand même drastiquement les morts sur la route, qui était un fléau et presque une spécialité française en Europe. Donc je constate malgré tout que, alors il est possible que le permis à points, c'est peut-être une politique un peu erratique, je ne sais pas, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'avec le peuple français, il faut être très sévère en matière autoroutière. Il n'y a rien à faire. C'est ainsi, vous avez d'autres pays, je vois aux États-Unis, etc., on respecte davantage les limitations de vitesse. En France, si on n'a pas peur du gendarme, ça ne marche pas. L'autre souci, c'est que vous avez beaucoup de gens maintenant qui roule sans permis.
700 000. Plus de 700 000, ce qui est énorme.
C'est un vrai souci. Donc, vous pouvez toujours leur retirer le permis de façon s'ils continuent. Et quand ils sont surpris sans permis, la punition n'est pas très grande non plus.
Et souvent, ça a conduit à des refus d'obtempérer.
C'est ce que je voulais dire.
Ils foncent dans les gendarmes ou les policiers.
Voilà, se rend compte qu'après, pour un problème de permis de conduire, les gens peuvent mettre en danger les gens qui sont là au départ, parce qu'ils imaginent qu'il n'a pas de permis, mais parce que la personne, sachant qu'il n'a pas de permis, veut éviter le contrôle.
Jean-Claude Dacier.
Bah, d'un côté, vous avez 75 à 80% de gens qui ont leurs 12 points. Ce sont des conducteurs qui, j'imagine, roulent assez peu, soit naturellement très prudents et très respectueux des limitations de vitesse ou du code de la route dans son ensemble. Et comme tu l'as dit, d'un autre côté, et ça c'est un danger mortel, tu as 600, 700 000 personnes qui continuent de rouler sans permis et donc sans assurance.
Oui.
Je préfère ne pas insister sur qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, même de tôle. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident avec des êtres humains. Donc on ne peut pas, je pense, il faut bien qu'on... Le permis à 12 points a sans doute eu ses avantages. Tu as raison qu'il y a 20 ans, on passait un petit peu... Bon, d'accord. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est urgent de réfléchir à ce qui se passe. Et quand tu disais qu'il fallait avoir l'œil sur ce qui vous guette au bord des routes, j'ai noté... le nombre de panneaux que vous rencontrez, souvent très proches les uns des autres. 30, 50, 70, 80, 90, 110, 130.
Ça, c'est que les limitations. Il y a plein d'autres panneaux, vous savez, Jean-Claude.
Ah non, mais ça, oui, quand même.
D'accord.
Mais ça, c'est les limitations de vitesse. Déjà, il faut avoir l'œil et avoir le pied léger sur le... Ce n'est pas sérieux. Je ne parle pas des points que vous perdez 4 points, vous perdez 3 points pour un retrait, un oubli de pose de ceinture. Il est temps.
Quand on fait une faute, on paye le prix.
Il est temps, oui, voilà. Bien sûr. Là, c'est toute la philosophie de ce pays qu'il conviendrait de revoir. Parce que ce n'est pas uniquement dans le domaine de la sécurité routière que les Français prennent parfois quelques libertés avec la règle. Là, on enquiquine le monde. Il faut être impitoyable avec ceux qui boivent, se droguent et conduisent comme des fous. De moins en moins, me semble-t-il, sur les autoroutes. Moi, j'en fais tous les week-ends.
Sur les routes, peut-être. Mais sur les
peut-être
autoroutes,
sur les routes, j'ai moins l'expérience. Moi. Mais il convient, en effet, de revoir ça dans un esprit légèrement différent.
Alors, Prisca Temno, vous êtes d'accord avec ça, de revoir le système du permis à points, l'assouplir, je ne sais pas, est-ce que c'est dans les cartons de La République En Marche ou pas du tout?
Alors, je ne sais pas si c'est dans les cartons de La République En Marche, parce qu'on n'a pas bûché sur ce sujet-là aujourd'hui, hier et aujourd'hui, mais est-ce que... Il s'agit de dire que la mise en place du code de la route est là pour enquiquiner les Français? Absolument pas. La mise en place du permis à points, pardon, pas du code de la route, parce que je lisais le bandeau, la mise en place du permis à points est là pour protéger les Français et absolument pas pour les enquiquiner. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un dispositif beaucoup plus global de politique, de lutte contre les dérives sur la route et donc de la sécurité routière. Donc je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. Et encore une fois, vous le disiez, 75-80% des Français ont la globalité de leurs points, donc ils respectent tout simplement le code de la route. Et ceux qui ne respectent pas le code de la route, eh bien oui, il y a des sanctions derrière, que ce soit une amende ou des retraits de points, sachant qu'en général, les retraits de points, quand on les a, on peut les récupérer au bout d'un moment de façon assez automatique. On reçoit un petit courrier chez soi et on les récupère. Donc je pense que quand effectivement il y a des dispositifs, il faut de l'autre côté effectivement des sanctions quand ces dispositifs ne sont pas résolus, appliqués. Maintenant, maintenant, je vais vous rejoindre. En l'occurrence, ça fonctionne parce qu'il y a moins de morts sur les routes. Et là, j'arrivais sur le deuxième sujet. Il faut effectivement, premier sujet, lutter contre ces personnes qui roulent sans permis et sans assurance et qui sont de véritables dangers. Pour quelque raison que ce soit, qui se retrouvent sans permis, c'est absolument intolérable. Mais également travailler sur le sujet de la prévention. Et là, je vous rejoignais sur le sujet, effectivement, de la lutte contre l'alcool au volant, mais également la prise de stupéfiants au volant. Parce qu'on en parle
mieux
pas
l'enseigner dans les collèges et lycées.
Et même plus tard, parce qu'en réalité, c'est pas que les jeunes. Bien la sûr, prise de stupéfiants, ça concerne tout le monde. Ah, et ça, il faut l'accepter. Et il y a une politique de communication qui a été mise en place par le ministre de l'Intérieur depuis hier.
Il y avait, Christian Proutot, avant des policiers, des gendarmes qui venaient dans les enceintes scolaires pour expliquer ce que c'était. Il y en a de moins en moins qui sont un peu occupés sur le terrain, mais il faudrait peut-être relancer cela.
Ça, c'était une bonne chose. En plus, ça crée un lien. Je crois que de voir des gendarmes ou des policiers en tenue venir dans les écoles, je sais que ça, le corps préfectoral, le corps scolaire n'aime pas beaucoup. Les policiers et les gendarmes...
Ils demandent maintenant, ils sont assez demandeurs maintenant. Hein.
Mais le problème, c'est qu'il y a eu toute une période où justement on a levé le pied, parce que d'abord, ça pose un problème d'effectif, et qu'on évoque assez ce problème d'effectif pour pouvoir en parler. Mais pour en revenir à ce que vous évoquiez sur la récupération des points, il ne faut pas oublier qu'avant, c'était un an. On s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il fallait moduler parce que ça tombait comme à gravelotte et qu'on mettait les gens en situation, surtout par rapport à ceux qui professionnellement roulent beaucoup. Et on voit que dans les statistiques, ce sont les gens qui professionnellement roulent beaucoup qui perdent le plus de points, ce qui est logique. Ce qui est logique, sauf que c'est eux qui sont le plus pénalisés, surtout quand c'est un permis professionnel. Alors je pense qu'il y a des choses à revoir. On a ramené, je crois, à 6 mois maintenant, la récupération d'un point quand on n'a pas commis de petits excès. C'est un mois pour un point. Mais si on a perdu 2 points... c'est beaucoup
et
plus
quand
long.
Quand on a perdu 4, c'est très très
long. Alors là, c'est, si on a perdu 4,
on
c'est
le stage.
Ce qui est peut-être pas mal, c'est que le débat, il est sur la table là. On vote dans 6 mois, et donc je pense qu'on commence
peut-être
seulement.
Peut-être qu'on va chouchouter les automobilistes. Hein.
C'est possible qu'on chouchoute un peu l'automobilisme.
Moi, je pense qu'il y a
on verra, mais je pense que tous les candidats font des propositions.
Christian Proutot.
Non, mais je pense que là, c'est un débat de circonstances, parce que ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui a fait un calcul en le disant, si je parle de ça, ça peut aider.
Oui,
parce
ça rencontre un écho dans l'opinion publique.
Tous ceux qui n'ont pas de permis vont voter pour moi. Non, je pense qu'il y a d'autres problèmes avant qui sont plus une priorité. Et là je vous rejoins, je crois qu'effectivement, il y a eu un impact important sur la sécurité routière qu'il ne faut pas négliger. Et on n'est pas les seuls en Europe à avoir un permis à point. Mais par contre, se pencher sur la manière de gérer ce permis à point, ce serait, à mon avis...
Allez, encore un mot.
Que la qualité des voitures et l'amélioration du réseau routier ne sont pas pour rien dans l'amélioration des statistiques, n'est-ce pas ?
Oui, mais c'est un tout.
Mais oui, mais le nombre de points de permis, c'est aussi important.
Gommons les aspects manifestement non bienveillants et qui ne conviennent pas manifestement quand on écoute et qu'on interroge les Français.
Maître, un dernier mot.
Ils ont leur opinion.
Très sincèrement, moi qui suis souvent critique par rapport à la politique judiciaire, en matière de répression, justement des chauffards, les juges ont plus la main lourde qu'avant.
J'aimerais juste qu'on prenne une seconde pour évoquer cette arrestation d'un baron de la drogue, vraiment un gros bonnet, comme on dit dans votre langage, Christian Proto. Il s'appelle Sofiane Ambly, il a été arrêté au Maroc. On va faire le point sur cette arrestation avec vous, Victor Chabert.
Oui, Laurence, il était en cavale depuis mars. Le baron de la drogue Sofiane Ambly a été arrêté vendredi dernier. Il était dans une clinique privée à Tanger où il se faisait soigner après une violente agression. Un probable règlement de compte selon la police locale. Le trafiquant originaire de Mulhouse est surtout connu pour avoir été l'indic de l'ancien patron de l'office anti-stup François Thierry. Sofiane Ambly est l'élément clé du scandale de l'importation de 7 tonnes de cannabis en France qui a provoqué la chute et l'éviction de celui qui était considéré comme l'un des meilleurs flics de France. Sofiane Ambly a un casier judiciaire bien rempli, lourdement condamné à plusieurs reprises pour trafic de cannabis. Il était recherché à nouveau pour une affaire de stupéfiants. La justice le soupçonne d'avoir perçu 2 500 000 euros pour organiser l'importation de 4 tonnes de cannabis. Des accusations démenties par son avocat.
Merci Victor Chabert. Christian Proto, c'est ce type de gros trafiquant que, évidemment, les stupes recherchent à l'international.
Oui, en fait, il y a plusieurs étages à la fusée, si j'ose m'exprimer ainsi. On part de la consommation, de la distribution, et puis de ceux qui animent le réseau. Et malheureusement, pas assez des gens, des pays qui fournissent. Bon, là, il se trouve qu'il se trouve dans un pays connu pour cultiver autre chose que les tomates. Et il serait important de mettre tout ça en perspective. Mais c'est vrai que quand on a un caïd, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que les réseaux existent et sont repris par d'autres et que c'est un combat continu. Donc il faut pouvoir taper à tous les niveaux. C'est le deuxième qui est pris en peu de temps, ce qui prouve l'efficacité de nos services et que contrairement à ce qu'on pourrait avoir tendance à dire et à penser, c'est pas le tonneau des Danaïdes. Quand on mène la lutte, quand on met les moyens en face de ça, on a des résultats.
Mais ce sont des mois et des années quasiment d'investigation, Maître Golnadel, pour arriver à attraper les têtes de réseau, parce que souvent on attrape les dealers, les consommateurs, on a énormément de mal à remonter jusqu'aux têtes de réseau, donc c'est à saluer aujourd'hui.
Ah oui, non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand un gros bonnet est appréhendé comme ça au Maroc, et que la police marocaine a fait son œuvre. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et d'ailleurs, je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud, en Colombie
oui,
peut-être
ils ont pris
en Colombie.
L'équivalent de Pablo Escobar au niveau donc, quantitatif, si je veux dire.
Exactement, voilà. Oui. Donc, qui a été un ancien guérillero marxiste, ce qui est quand même un peu particulier. Donc oui, ça fait deux bonnes nouvelles en 3 jours.
Presque à TMNO de La République En Marche.
Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, déjà, je pense saluer le travail de nos services de renseignement, parce que derrière, on voit aussi tout le travail dont on parle très peu, parce qu'en fait, c'est un travail très sous-marin, très discret, c'est comme ça qu'il est efficace, mais qui a été renforcé notamment avec Gérald Darmanin, parce qu'il a renforcé les moyens alloués à ses services de renseignement territoriaux. Et on voit aussi là l'importance de nos services de renseignement qui parlent avec les services de renseignement de ces autres pays. Parce qu'effectivement, il faut que sur ces sujets-là, il y ait une discussion qui avance ensemble. Donc il y a le sujet, effectivement, des stupéfiants, de ces gros caïds, et puis aussi le sujet du terrorisme en général.
Jean-Claude Dacier, sur l'interpellation de ce baron de la
drogue. Non, je reconnais que c'est le genre de résultat qu'on voudrait avoir toutes les semaines, tous les 15 jours. Mais bon, la bagarre est partie, la guerre est déclarée. Je pense que là-dessus, Darmanin est sérieux, et qu'il a appris et qu'il a essayé de se donner les moyens utiles à essayer d'obtenir des résultats. On le voit là, on disait beaucoup, oui, on perd son temps sur les barrages, en réalité, mais qu'est-ce qu'on fait pour les gros bonnets? Ben là, on en a arrêté un. C'est un succès qu'il faut saluer, c'est vrai.
Christian Proto, un dernier mot.
Oui, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument passer des accords avec ces pays sur la production. Parce que si la production est plus loin, c'est plus compliqué.
De cannabis, transport.
Voilà, oui, tout à fait. Ce qui est inquiétant, par contre, et c'est sur un autre type de drogue, c'est ce qui va se passer en Afghanistan. Parce qu'il ne faut pas oublier que la drogue a été un moyen financier important pour le terrorisme pendant des années. Ça a été également important en Afrique. Donc, ce n'est pas simplement parce que ça détruit des gens. C'est également un outil financier important. Et c'est là, vous aviez raison, que le renseignement joue. Mais il faudra, on l'a vu avec la police marocaine la coopération fonctionne. Mais derrière, il y a une politique que les États doivent mener, accepter de mener, contrainte ou forcée. Et c'est le cadre, on l'a bien vu, avec les obligations de quitter le territoire. C'est pas toujours simple.
On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant. On reviendra sur cette scène dont nous avons parlé sur CNews. Cet homme armé qui avait été interpellé à Montrouge alors qu'il brandissait deux couteaux devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a été relaxé. Relaxé des faits de menace de mort qui lui étaient reprochés. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour port d'armes prohibées. On y revient dans un instant dans Punchline. À tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Prisca Thévenot de La République En Marche, Maître Golnadel, avocat, et Christian Proutot, ancien préfet et ancien patron du GIGN. On va parler de cet homme qui a été interpellé à Montrouge la semaine dernière alors qu'il brandissait deux couteaux devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Eh bien, il a été relaxé des faits de menace de mort qui lui étaient reprochés. On fait le point avec Clémence Barbier. Clémence.
Près des locaux de l'Office français de l'immigration à Montrouge, un homme en gilet jaune s'agite. Il tient dans ses mains deux couteaux, puis tente de poignarder les forces de l'ordre. Quelques secondes plus tard, l'homme est neutralisé. Il a été jugé en comparution immédiate au tribunal de Nanterre, mais sa peine fait réagir. L'individu bengladais est relaxé pour les faits de menace de mort qui lui sont reprochés. Une décision incompréhensible pour Mathieu Vallet, du syndicat indépendant des commissaires de police.
Cette situation, elle n'est pas banale pour nous et elle aurait nécessité une peine beaucoup plus ferme. Et la relaxe sur les menaces avec armes envers les policiers est quelque chose qu'on ne comprend évidemment pas.
L'homme a toutefois écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et port d'armes. Mais est-ce suffisant ? Les autorités administratives pourraient faire preuve de plus de fermeté, selon Georges Fenech, ancien magistrat.
On peut s'étonner aussi qu'il n'y ait pas une mesure administrative à l'issue de l'audience, puisqu'il s'agit d'un ressortissant étranger débouté d'asile, et même s'il a fait appel de cette décision de débouté d'asile, le ministre de l'Intérieur, le préfet, ont la possibilité, en urgence absolue, d'expulser cet individu qui présente manifestement une menace pour l'ordre public.
Selon l'Office français de l'immigration, les Bengladais représentent cette semaine 16,6% des demandes d'asile en Île-de-France.
Maître Golnadel, on est là devant une aberration totale du système. On a quelqu'un qui est débouté du droit d'asile, qui a fait une demande en appel, qui sort de l'Office français de l'immigration avec deux couteaux, qui menace des policiers et à qui on fait une relaxe partielle et 3 mois de prison avec sursis.
Non mais, pardon de vous le dire, il n'y a aucun élément rationnel dans cette histoire. Peu importe qu'il ait été relaxé ou pas sur un chef d'accusation, c'est aucune espèce d'importance. Il est en situation irrégulière, il est débouté du droit d'asile, il n'y a pas de guerre au Bangladesh. Hein. Effectivement, comme le dit très bien Georges Fenech, vous comprenez, par ce système pervers, si on suit jusqu'au bout le système pervers, il fait appel. Et puis ensuite, il fait cassation. Mm-hmm. Il en a pour 5 ans de tranquillité, alors que...
Ça s'appelle l'état de droit.
Alors, pas du tout. C'est, l'état de droit, comme le rappelle très bien Georges, l'état de droit, ça peut être effectivement, compte tenu de sa situation totalement illégale sur le territoire français, en urgence absolue, de le cueillir au sortir du tribunal et de le renvoyer quelque part. On est réellement... Je n'arrive même pas, vous voyez, je sais bien que je suis un partisan, moi, de la répression bien tempérée, mais quand même, je n'arrive pas à me mettre dans la tête d'un juge laxiste qui puisse aller jusqu'au bout de ce laxisme-là. J'arrive pas à le comprendre.
Presque
à
thème de La République En Marche.
Eh bien, je suis d'accord. Parce que déjà même, prenons un exemple très, très clair, quelqu'un qui est en situation régulière avec un titre de séjour ou qui fait une demande de titre de séjour, quand elle enfreint la loi, eh ben son titre de séjour ou sa demande de titre de séjour saute. Donc là, en l'occurrence, on est vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas en autorisation d'être sur le territoire, qui s'est fait débouter de son droit. Donc,
qui brandit deux couteaux face à des policiers.
Et donc, effectivement, qui en plus montre et se fait arrêter pour ça parce qu'il ne respecte pas la loi, se retrouve extrêmement menaçant. Voilà, je vous rejoins sur votre,
même
sur
si
votre commentaire.
Fait, il ne devrait plus être là. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Oui, mais là, il est pour le coup voilà. Arrêté.
Voilà. Après, arrêté, mais pas... Après cette histoire qui n'est pas la première dont nous parlions depuis quelques années. Demandez-vous pourquoi les Français mettent et placent en tête les problèmes de sécurité dans leurs préoccupations et au cœur de la campagne électorale du mois d'avril prochain. Et dans leur esprit, j'imagine, sans forcer ce qu'ils pensent, que quand ils disent sécurité, ils parlent aussi immigration et justice. Et là, on a l'exemple parfait qui résume, hélas, dans le mauvais sens. Moi, j'en veux... En plus de ça, il va y avoir un problème psychiatrique.
Donc, je veux dire, non,
vous vous rendez compte?
Le médecin l'a ausculté, a priori, l'a déclaré en pleine capacité pendant sa garde à vue. Garçon.
Mais il aurait dû être mis dans l'avion le lendemain et renvoyé au Bangladesh, ou mis dans un centre de sécurité fermé, négociation avec les Bangladais et retour au pays. Et ça devrait être comme ça le cas de milliers et de milliers de gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Vous allez voir qu'il va se passer des choses à la prochaine présidentielle si on reste dans ce flou artistique. Enfin, artistique, je retire le mot. Mmh. C'est pas le mot.
Christian Proutot.
Oui, moi, je voudrais essayer de trouver quelque chose de positif à l'arrestation. Mmh. J'ai vu une équipe faire un travail d'une grande efficacité.
Ils ont utilisé un taser pour l'arrêter.
Ah, oui. Ils ont utilisé une riposte appropriée.
Mmh. Parfait.
Il leur doit la vie, parce que ils étaient...
En légitime défense.
En défense légitime. Légitime
c'est
défense.
C'est quoi la différence?
La défense, c'est qu'on peut penser qu'effectivement, ils auraient pu. Donc la défense pouvait apparaître légitime. La légitime défense n'était pas avérée, puisqu'il retournait en même temps le couteau vers lui.
D'accord, oui.
Donc, mais on ne rentre pas dans les détails. Je voulais dire qu'il y a des moyens d'intervention intermédiaires qui ont été... par des garçons qui ont bien bossé, des policiers qui ont fait bien leur travail et qui ont fait qu'il a pu être déféré à la justice. Alors, le commentaire sur la décision du juge, je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien... Celui qui m'interpelle le plus, c'est celui qui a dit que au niveau psychiatrique...
C'est le médecin qui l'a ausculté, l'a déclaré en pleine capacité pendant sa garde à vue.
Il se promène avec une lampe clignotante sur le dos... deux couteaux, il y a quelque chose qui est
fantastique. Et qui va je rappelle que c'est parce qu'on lui avait refusé une demande de logement.
Oui, c'est ça.
Logement.
Mais dans le cadre du fait que je pense qu'il avait. Même s'il a été débouté, il faisait l'objet.
Il
était en appel, donc c'est ce qu'il réclamait. Mais bon.
Il réclame son dû.
C'est-à-dire un logement.
Les soins de santé, évidemment, gratuits.
Ça, c'est un des enjeux quand même de la présidentielle pour la République en marche.
Oui, mais c'est pour ça, encore une fois, là, c'est une actualité, effectivement, qu'il est important de commenter et de montrer, mais ça ne résume pas l'ensemble de ce qui se passe sur le territoire, sur ces sujets. Non. Parce que je le rappelle encore une fois, non mais attendez, je veux bien qu'on puisse dire que tout...
Non, je suis d'accord avec vous.
Allez-y, Prisca Thévenot, terminez, ce qui qu'on avance, on a un autre sujet à traiter.
Non, attendez. Parce qu'effectivement, sur le sujet des déboutés du droit d'asile ou alors des personnes en situation irrégulière en France, effectivement, il y a le sujet des OQTF, dont on a les obligations de quitter le territoire, dont on a énormément parlé, et justement le sujet des laissez-passer consulaires avec les pays qui doivent récupérer leurs ressortissants. Donc ça, c'est un premier sujet. Gérald Darmanin est à la manœuvre sur ces sujets-là. Ce n'est pas si facile que ça, sinon on serait bien évidemment tous en train de se dire que c'est génial et qu'on y arrive. Donc les sujets sont en cours. Mais après, se pose aussi la question, et là, c'est aussi mis en place par Gérald Darmanin, des personnes qui sont en situation irrégulière, avec un droit de séjour tout à fait normal sur le sol, effectivement, même là, quand ils ne respectent pas la loi, le titre de séjour leur est retiré. Donc, je veux dire, les choses avancent. Là, cette actualité peut laisser croire, je veux dire encore une fois, peut laisser croire que c'est une généralité, mais ce n'est absolument pas une généralité.
Moi, je ne vois pas beaucoup de gens...
Maître Gondel. Mais vous ne les voyez pas parce qu'ils sont justement
partis.
En Europe...
L'Europe se conduit de manière lamentable pour expulser les gens qui ne devraient pas être là. Et parmi les pays européens qui se conduisent de manière vraiment lamentable, la France est dans le peloton de tête. Donc effectivement, je ne vois pas avancer beaucoup de choses.
Non, je voudrais juste dire qu'il serait intéressant pour tout le monde, justement pour que le débat puisse être clair, d'avoir la motivation des juges. Et dans les problèmes que l'on se pose... face à la justice et qui n'est pas du ressort de l'État. L'État ne peut pas décider à la place des juges. Il faudrait qu'on puisse avoir cette visibilité.
Non, j'aimerais qu'on garde un peu de temps, Maître Bonnadel, pour un sujet qui vous intéresse, que demain, le procès des deux hommes accusés du meurtre à caractère antisémite de Meir et Knoll va démarrer à la Cour d'assises de Paris. Je vous rappelle que le 23 mars 2018, le corps de cette dame de 85 ans a été retrouvé lardé de coups de couteau et partiellement carbonisé dans son logement social du 11e arrondissement. On va écouter l'interview exclusive du fils de Mireille Knoll, Daniel Knoll, sur CNews. Et puis je vous passe la parole ensuite.
50% des attaques racistes sont sur les juifs, alors qu'il y a presque plus de juifs en France. On était 750 000 il y a 10 ans, on n'est plus que 450. Donc 450 000, simplement le manque d'instruction, le manque d'intelligence de certains aussi a fait monter dans les banlieues et un peu partout un espèce de racisme. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux ou même maintenant le Covid, ça serait les juifs qui en sont responsables. Mais c'est du n'importe quoi. Je veux dire, ma mère, elle n'a jamais rien fait de mal à personne.
Une interview exclusive réalisée par Christine Kelly. C'est un procès extrêmement important, Maître Golnadel, qui s'ouvre demain.
Et c'est un crève-cœur, parce que cette vieille dame rescapée de la Shoah, tout le monde l'a décrit comme... son seul défaut, c'était l'excès d'indulgence, si vous voulez, l'excès de bienveillance. Bon, elle a été massacrée au cri d'Allahu Akbar. La réalité aujourd'hui de l'antisémitisme islamique n'est plus niée que par les aveugles ou les sourds qui ne veulent ni voir ni entendre. Mais il y a quand même une sorte de manière de consolation. D'une certaine manière, l'affaire Knoll, c'est l'anti-affaire Sarah Halimi. La justice est allée assez vite. Elle a montré de l'empathie pour la famille de la victime, alors que dans l'affaire Sarah Halimi, la juge n'avait même pas voulu me recevoir.
Vous êtes avocat d'un des...
Oui. Elle a agi à charge et à décharge. Elle a fait son boulot, on ne demandait pas un traitement de faveur, et ni les parties civiles, ni les forces de son plein, du travail très efficace des deux juges d'instruction, et même la réaction du peuple français, vous voyez. Autant de l'affaire Halimi, ça a été mis sous le tapis. Et là, le peuple français, de manière unitaire, tout parti confondu, est descendu dans la rue. Et d'une certaine manière, pendant un moment, Madame Mireille Knoll, c'était un peu la grand-mère de tous les Français assassinés. J'essaye, vous voyez, dans la pénombre de cette affaire horrible, de trouver une manière de réconfort. Mais ceci dit, calmement, je vous dis fermement que j'attends le châtiment le plus sévère et le plus exemplaire pour cette fois.
Jean-Claude Dacier, sur l'antisémitisme aujourd'hui en France, qui est une réalité incontestable.
Il est évident que l'antisémitisme que ce pays a connu au siècle passé a quasiment disparu. Il subsiste encore ici ou là, c'est vrai, dans certains milieux dit d'extrême droite ou d'extrême droite. En revanche, il n'est pas niable que nous avons maintenant une population immigrée importante qui, pour beaucoup, considère qu'Israël menace l'existence des Palestiniens en Palestine et mène un combat. En France, la porosité entre ce qui se passe au Proche-Orient et chez nous est devenue insupportable. Et vous avez incontestablement un racisme antisémite d'une grande violence dans la plupart des milieux islamiques, et peut-être pas seulement. Il y a une vraie guerre qui continue entre les deux communautés, et c'est évidemment quelque chose...
Une importation de ce qui se passe...
Mais évidemment, c'est largement dû, et pas seulement, mais largement dû à ce qui se passe. Et évidemment, aux guerres qui se sont succédées, okay, et aux résultats assez pathétiques que nous vaut l'attitude notamment américaine. Donc on a aujourd'hui importé un conflit d'une violence très grande, dont on ne voit pas la solution, et qui fait des victimes dans ce pays.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement cette importation du conflit qui n'est pas sur notre sol, Et souvenez-vous, je ne sais plus si c'était cette année, mais il y avait eu cette demande de faire des manifestations suite à l'intensification du conflit dans cette zone du monde. Et le ministre de l'Intérieur avait dit, attention, on peut retomber sur les émeutes qu'on avait connues alors, où il y avait eu du coup l'occasion d'avoir des actes et des propos et des violences antisémites. Et donc oui, il ne faut pas nier les choses, il faut le pouvoir le le dire, parce que ça existe encore et c'est souvent de en plus banalisé.
Absolument. Un dernier mot là-dessus.
Oui, on ne peut pas réduire, vous avez raison, mais on ne peut pas réduire l'antisémitisme islamique au conflit israélo-palestinien. Le type en question, il expliquait.
Il expliquait quoi?
Il expliquait que les juifs, ont, même quand ils n'en ont pas, ils ont de l'argent, que les juifs ont tous les pouvoirs. Il y a un antisémitisme islamique fort, ancien, contrairement à ce qu'on pense, et qui ne se réduit pas à la question israélo-palestinienne, qui, alors là, qui effectivement, ajoute encore de la détestation.
Christian Poteau.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue, parce que c'est pas... Il y a la géopolitique, c'est vrai, ça déteint, mais la plupart de ces imbéciles, la géopolitique, ils savent pas trop où ça se trouve, hein, donc... C'est plutôt
2000 Français qui sont partis en Syrie quand même.
Mais c'est pas rien.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont antisémites parce que ça se transmet politiquement, pour certains, c'est presque un monopole de dire ben oui, voilà, il y a des responsables. Voilà. Et donc de définir des responsables. Et c'est contre cette imbécilité crasse qu'il faut lutter. Et on en revient toujours à la même chose. C'est de l'éducation. Et ça, ce qui est terrible à dire, c'est que ça ne s'arrête pas, qu'il faut sans cesse remettre ce problème éducatif à l'école en particulier.
Merci à tous les quatre. Et cette interview du fils de Mme Clone est à retrouver en intégralité sur le site internet de CNews. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. Et tout de suite sur CNews, ce sont les débats de Christine Kelly avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Très heureuse de vous accueillir. Tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Eh bien, nous allons commencer par la neutralité carbone en France d'ici une trentaine d'années. Possible ou pas? Oui, répond une étude, mais avec du nucléaire. Les détails dans un instant.
Emmanuel Macron dans la Loire, bain de foule, 800 millions d'euros promis pour développer la robotique, comme un air de campagne électorale. L'arrestation au Maroc d'un gros bonnet de la drogue français. Et puis l'enquête sur le tir mortel d'Alec Baldwin, il s'entraînait à dégainer son arme.
Et puis ce sera Philippe Juvin qui sera notre invité exceptionnel dans un instant pour le grand oral de Punchline. Tout de suite, un mot sur la tendance météo avec vous Marlène Dulray. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Beaucoup de grisailles demain matin. Le soleil fera des apparitions en journée, mais on a parfois de mauvaises surprises à cette période de l'année. Météo complète à la fin du journal.
Europe 1.
Énergie renouvelable ou nucléaire, les deux, mon général, les deux seront nécessaires pour produire notre électricité et parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050.
Et oui, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, vient en effet de présenter ses préconisations. Résultat, Maud Descamps, il est possible d'atteindre la neutralité carbone à des coûts acceptables, mais à une condition, et pas des moindres, en conservant une part de nucléaire.
Oui, d'un point de vue strictement économique, il est plus intéressant de s'appuyer sur un mix énergétique qui comprend à la fois des énergies renouvelables et du nouveau nucléaire. Mais attention, hein, RTE souligne qu'un scénario avec 100% d'énergie renouvelable est tout à fait possible. Son coût est juste plus élevé. Dans tous les cas, il est indispensable de développer les énergies renouvelables, souligne Thomas Vérinck de RTE.
Le fait que les énergies renouvelables sont indispensables est l'un des enseignements majeurs. Je vous rappelle qu'on a aujourd'hui 60% de notre consommation d'énergie qui vient des énergies fossiles et qu'en 2050, ça doit avoir complètement disparu. Et donc, on va devoir augmenter la consommation d'électricité. Et pour augmenter la consommation d'électricité, il y aura de toute façon des énergies renouvelables dans notre bouquet électrique.
Il va donc falloir électrifier massivement nos usages, que ce soit dans le secteur des transports, du chauffage ou encore de l'industrie, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. RTE estime que les besoins en électricité vont augmenter de 35% d'ici 2050.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1, on vient de l'apprendre. L'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde, va investir plus $1 milliard pour l'environnement, annonce à quelques jours du début de la COP26 en Écosse. Puisqu'on parle énergie, un mot sur les prix des carburant, il se tasse après avoir atteint des sommets. Le gazole est quand même toujours très élevé, en moyenne à 1,5531 €, le sans-plomb 95 à 1,64 €. Dans la série des prix qui grimpent, certains boulangers pourraient augmenter le prix de la baguette de 5 ou 10 centimes. Dixit, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, en cause la hausse des prix du blé et de l'énergie. Décidément, on y revient.
Plus d'une trentaine de déplacements au compteur depuis la fin août. Emmanuel Macron était aujourd'hui dans la Loire pour vanter les mérites du plan d'investissement 2030.
Le président était tout à l'heure dans le centre-ville de Montbrison. Juste avant, il visitait l'entreprise Siléane à Saint-Étienne, spécialisée dans la robotique. Un déplacement qui a vraiment des airs de pré-campagne, Jacques Serret.
Oui, c'est debout, micro à la main, au milieu de l'entrepôt de cette entreprise que le chef de l'État s'est adressé à la centaine d'employés.
Vous êtes au cœur du futur de notre industrie. On pourra réindustrialiser la France grâce aux transformations auxquelles vous contribuez. On ne va pas réindustrialiser la France en redéveloppant l'industrie qu'on connaissait il y a 20 ans ou 30 ans. La nostalgie n'est pas de bonne conseillère. On va le faire en développant une industrie qu'on est en train d'inventer, de transformer, mais où il y a beaucoup plus de valeur ajoutée.
Emmanuel Macron, à la fois président et VRP de son propre plan France 2030, annonce un chèque de 800 millions d'euros consacré au secteur de la robotique. Quelques heures plus tard, changement de décor pour le locataire de l'Élysée, pas encore candidat, déambulation et bains de foule dans le centre-ville de Montbrison. Accueil en fanfare, vous l'entendez derrière moi, serrage de main par dizaines et remise des insignes de l'Ordre National du Mérite à la figure locale, le chocolatier François Pralu, avec au passage une petite phrase qui n'a rien d'anodine. « Quand les vents mauvais reviennent, on voudrait nous faire croire que ce que nous sommes, ça serait du rétrécissement », dit Emmanuel Macron avant de poursuivre. « Nous sommes des valeurs de travail, de mérite et de générosité ». Alors du côté de l'Élysée, on assure que le président n'est pas en campagne. C'est tout de même de plus en plus difficile à croire.
Jacques Serret à Saint-Étienne pour Europe 1.
Sofiane Ambly, c'est le nom de ce baron français de la drogue qui vient d'être arrêté au Maroc.
Oui, il était en cavale depuis plus de 7 mois. Il a été retrouvé vendredi dernier dans une clinique de Tanger où il était soigné après une agression. Originaire de Mulhouse, il est à l'origine du scandale de l'ex-office antidrogue dont il était l'indique. Il aurait aussi organisé un important trafic. C'est donc un gros poisson, Gladys Lafitte.
Oui, il est connu pour avoir été l'indicateur de l'ex-chef de l'office anti-stupéfiants aux pratiques controversées, un personnage clé dans l'affaire qui a fait tomber le commissaire. Mais à 46 ans, Sofiane Ambly est surtout soupçonné d'être impliqué dans un autre dossier. Il aurait touché 2 500 000 euros pour organiser l'importation de plus de 4 tonnes de cannabis en France, ce qu'il conteste. Il ne s'était pas présenté à la justice qui voulait le placer en détention provisoire, d'où cette nouvelle cavale. C'est pour lui une habitude. Cette fois, c'est donc au Maroc qu'il a été retrouvé dans une clinique où il a été admis vendredi dernier pour une blessure par sabre au visage. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte. Sofiane Ambly avait de faux papiers allemands, mais il a été confondu par ses empreintes digitales. Surnommé la chimère, il faisait l'objet de ce qu'on appelle une notice rouge d'Interpol. Pour l'instant, il n'est pas en état d'être arrêté à proprement parler puisque son pronostic vital est réservé. Mais dès que cela sera possible, une demande d'extradition sera formulée par la France. Un énième épisode de la saga Ambly, m'a confié un enquêteur.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
On va maintenant prendre, Hélène, des nouvelles de la pilule anti-Covid. Alors que le nombre de cas repart, l'Agence européenne des médicaments lance l'examen accéléré du médicament du laboratoire américain Merck.
Oui, le molnupiravir, c'est son nom. Il pourrait avoir un rôle clé dans la lutte contre la pandémie, comme l'explique le professeur Gilles Pialou, infectiologue à l'hôpital Tenon.
L'intérêt du molnupiravir, c'est d'être ce qu'on appelle un antiviral direct, c'est-à-dire qu'il inhibe la multiplication du virus à l'intérieur de l'organisme. Et quand on regarde les décès en comparant le groupe qui a pris le placebo et le groupe qui a pris la molécule active, on a une diminution de 50% de ce qui est le critère qui a été retenu dans cette étude, c'est-à-dire soit l'hospitalisation, soit le décès. Donc c'est des résultats très encourageants, c'est des résultats préliminaires qui n'ont pas encore été publiés, mais qui ont été suffisamment importants pour que l'Agence européenne décide d'accélérer le processus d'évaluation du dossier de cette molécule. L'idée n'est pas du tout d'imaginer que les traitements vont remplacer le vaccin. C'est en plus dans un secteur qui était passablement pauvre. Et là, on a quelque chose qui va avoir un impact sur ces formes en ville, ambulatoires, enfin qui concerne énormément de gens, et probablement plus qu'on ne le croit, puisque par définition, ce n'est pas forcément des gens qui rentrent dans le système de soins, en tout cas dans le système hospitalier.
Le professeur Pialou, joint par Afsaneh Sabouhi, concernant le vaccin, comme Pfizer Moderna annonce des résultats positifs chez les enfants de 6 à 11 ans, les deux vaccins pourraient être prochainement autorisés aux États-Unis pour cette tranche d'âge.
Direction les États-Unis, à présent justement avec cet accident mortel sur le tournage d'un film avec Alec Baldwin. On commence à en savoir plus, Hélène.
Oui, la directrice de la photographie a été tuée par balle, le réalisateur blessé lors du tournage d'un western intitulé Rust. Alexis Guilleux, de nouveaux témoignages viennent éclairer les circonstances de ce drame, notamment celui du réalisateur.
Oui, au moment du drame, Joël Souza se tenait à côté de sa chef opératrice pour vérifier l'angle de la prise de vue. L'équipe répétait une scène dans une église dans laquelle Alec Baldwin, assis, dégainait son arme et la pointait vers la caméra. Le réalisateur dit avoir entendu un coup de fouet puis un gros pan. Alina Hutchins a alors commencé à tituber en se tenant la poitrine et Joël Souza a remarqué que lui saignait de l'épaule droite. Tout le matériel de cette scène avait été préparé avant une pause déjeuner et le réalisateur a confié aux enquêteurs ne pas être certain que le pistolet ait été de nouveau vérifié au retour de l'équipe. L'enquête se concentre donc sur deux personnes, l'armurière, responsable de la sécurité des armes à feu sur le plateau, et l'assistant réalisateur, l'homme qui a tendu le pistolet à Alec Baldwin en lui précisant qu'il n'était pas chargé. À propos de l'ambiance au sein de l'équipe, Joël Souza assure que tout le monde s'entendait bien, même si on sait que la production avait pris du retard et qu'une demi-douzaine de personnes avaient démissionné à cause des conditions de sécurité et de problèmes de paiement. Dans un autre témoignage, un caméraman présent sur le plateau assure qu'Alec Baldwin était très précautionneux lors du maniement des armes, lors de scènes enregistrées depuis le début du tournage.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Un peu de musique maintenant. Vous allez reconnaître la voix d'Angèle. La chanteuse vient de sortir le premier extrait de son nouvel album « Bruxelles, je t'aime, ode à sa ville natale » comme elle l'explique au micro de Stéphanie Loire.
Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Cette chanson, elle est née il y a quelques mois quand je me suis retrouvée loin de Bruxelles, une fois de plus. Moi qui avais passé 3 ans en tournée dans le tourbus, là je me suis retrouvée confinée. Je rentre chez moi de nouveau et cette chanson m'est venue parce que j'avais beaucoup mes amis au téléphone qui me racontaient comment ils vivaient cette période-là de leur côté. Et puis j'avais déjà cette mélodie qui était déjà un peu présente et voilà. Et j'ai écrit, puis petit à petit elle s'est construite comme ça. J'avais envie de faire une déclaration d'amour. Je trouve que les chansons sur les villes, elles sont toujours touchantes parce que même quand c'est pas la nôtre, on comprend le principe quoi, de sentir parfois loin de chez soi ou d'avoir besoin de déclarer son amour à une ville. Mais donc aussi aux gens qui s'y trouvent. Quoi.
Angèle qui aime sa ville Bruxelles. Pour l'album, il va falloir patienter encore 6 semaines.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS.
Et on va faire un point sur la météo avec vous, Marlène Duret. Marlène, beaucoup de grisailles demain pour débuter la journée.
Oui, grisailles, nuages bas, brouillard, en cause des conditions anticycloniques et puis l'humidité encore présente dans la masse d'air. C'est vraiment le genre de situation où la grisaille peut vraiment persister. On est sûr de rien, en tout cas. Matinée nuageuse partout avec, oui, parfois quand même quelques éclaircies. Un risque d'averse dans les départements côtiers de la Manche et dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis la perturbation d'aujourd'hui qui va arroser encore faiblement juste la matinée. Alors la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne Franche-Comté, l'Est de l'Auvergne, le Lyonnais, mais l'après-midi, on n'en parle plus, ce sera vraiment le retour d'un temps sec et variable dans toutes ces régions, et puis il y aura quand même quelques chanceux qui bénéficieront d'un temps très ensoleillé. Les Pyrénées, l'ensemble des Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pourtour du Golfe du Lion, et pour ce qui est des Pyrénées et des Savoies, là le ciel aura tendance à bourgeonner l'après-midi. Les températures de fin de nuit sont plutôt douces dans l'ensemble, les maxis en journée afficheront au gré des apparitions du soleil, entre 13 et 18 degrés, 13 en Moselle, 15 à Lille et Strasbourg, 16 à Paris, 17 au Mans, ainsi qu'à Lyon, 18 à Nantes, La Rochelle, Agen, Montélimar. Il fera localement 19-20 degrés près des Pyrénées et puis une belle douceur se maintiendra près de la Méditerranée avec 20 à 23 degrés.
Merci beaucoup Marlène Duret, merci Hélène Zélani. On se retrouve demain à 19h pour les journaux. D'ici là, bien sûr, restez sur Europe 1. Dans un instant, Philippe Juvin est l'invité du grand oral de Punchline. À tout de suite.
Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, notre invité exceptionnel ce soir, c'est Philippe Juvin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, en tout cas la primaire des Républicains qui aura lieu le 4 décembre prochain. Nous sommes aussi avec Louis Hausalter. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Journaliste
Laurence.
À Marianne.
Bonsoir Monsieur Juvin.
Et nous aurons l'occasion d'interroger Philippe Juvin sur son programme, sur évidemment ses différences avec les autres candidats au sein des Républicains. Et puis peut-être à commencer par le premier thème qui est celui de la sécurité. 8 Français sur 10 quasiment pensent que ce sera un enjeu central pour la présidentielle. Ça arrive tout de même en deuxième position après le pouvoir d'achat dans les thèmes de préoccupation des Français, mais c'est absolument présent dans la vie quotidienne des Français. On a eu un exemple samedi de l'agression d'un maire dans une petite ville du Calvados qui a tenté de s'interposer pour arrêter un rodéo urbain. Il en a été pour ses frais, il a pris plusieurs coups de matraque, il a été blessé. On va écouter son témoignage, vous êtes élu local à la Garenne-Colombes et on va voir comment vous réagissez face à ce niveau de violence. On écoute ce maire.
Je suis arrivé plus haut, leur dire d'arrêter, sinon les gendarmes étaient là dans un quart d'heure. Et puis je suis reparti, je suis descendu là pour venir chez moi. Et là, il y avait des jeunes d'arrêter ici. Donc, je descends de ma voiture. Je n'avais pas fait 2 mètres que je m'étais pris de coups de matraque. Donc, je n'ai pas eu le temps de discuter avec. Au niveau du visage, la lèvre, le nez. Et je pense que j'avais la main comme ça et que ça a tapé la main en même temps. Donc, les gendarmes ne peuvent rien faire. Ils n'ont même plus le droit de les poursuivre. Ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc, c'est la libre. Les jeunes font ce qu'ils veulent, en fin de compte.
Philippe Juvin, quelles sont vos propositions en matière de sécurité? Comment aider alors ces élus locaux qui sont absolument seuls en première ligne, les policiers qui ne peuvent pas intervenir ou quasiment pas sur les rodéos urbains?
Écoutez, le grand drame de l'insécurité, c'est l'impunité. C'est-à-dire que les voyous qui sont toujours les mêmes. Quand on est maire, je suis maire depuis 20 ans, on connaît précisément qui met la pagaille, pour ne pas dire plus, dans nos communes. Mais on sait que quand on les attrape, quand on les amène devant le juge ou l'officier de police judiciaire, ils ont un rappel à la loi, ce n'est pas bien ce que vous avez
fait. C'est
fini
normalement les rappels.
Oui, oui, bah, pardon, mais ça va être réinventé sous une autre forme. Donc le sujet, c'est comment fait-on pour mettre fin à l'impunité, pour que la peur change de camp. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures. D'abord, effectivement, mettre fin aux rappels à la loi et les remplacer par des peines qui sont effectivement dissuasives. Au tapon, au porte-monnaie. Premier rappel à la loi, 100 euros. Deuxième rappel à la loi, 200 euros. Dixième rappel à la loi, 1000 euros. Et à un moment, ça va marcher. De la même manière, je crois évidemment qu'il faut donner des moyens à la justice, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. Construire des places de prison, ce qu'on n'a pas fait, contrairement à ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Mais si notre programme n'est que cela, comme il faut 5 à 10 ans pour construire des places de prison, rien ne se fera dans 5 à 10 ans. Eh bien, soyons agiles. Par exemple, confisquons les voitures qui bouchent les rues à l'ordre avec un mariage qui fait du bruit. Confisquons le scooter du rodéo. Bref, ayons une attitude qui renverse le rapport de force. Le sujet, c'est que le rapport de force n'est pas en faveur des honnêtes gens et de la loi.
Et c'est pour ça qu'ils mettent le thème de la sécurité aussi haut dans leurs préoccupations. Juste derrière le pouvoir d'achat, c'est très très proche en fait.
Non mais bien sûr, en fait, la sécurité, c'est la première des libertés. Quand vous vivez dans une commune, quelle qu'elle soit, vous ne voulez pas être importuné quand vous sortez. Or, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a par exemple pas une seule manifestation en France qui se passe sans aucun risque de trouble à l'ordre public. Donc, c'est le chaos généralisé parce qu'il y a cette impunité. C'est assez extraordinaire que quand il y a un fait divers, peut-être celui-ci, il y a toujours un député qui se croit plus intelligent que les autres, ou un ministre, ce qui est plus grave, et qui dit « Ah oui, mais nous allons donc rendre plus dur le code pénal. » Et on augmente le quantum des peines. En fait, le sujet n'est pas du tout là. Le quantum des peines, peu importe. Ce qu'on veut, c'est la certitude des peines. Et moi, je préfère des peines qui sont moins sévères, potentiellement, mais des peines qui sont certaines. Or, aujourd'hui, la certitude, c'est que les gens quasiment ne sont jamais condamnés.
Une question de Louis Haussalter.
Et quand Emmanuel Macron augmente le budget de la justice, comme ça n'a pas été fait depuis longtemps, quand il organise des états généraux de la justice, qu'il ouvre le dossier de l'efficacité de la chaîne pénale, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il apporte, d'une certaine façon, une réponse pour être le président du pays où, je crois, on doit vivre sa vie paisiblement? C'était le slogan qu'il avait trouvé. Est-ce qu'il n'apporte pas une réponse au problème que vous soulevez?
Il avait promis de construire 15 000 places de prison.
Ça, c'est pas fait, on est d'accord.
Ça ne se fera pas.
Ça ne sera pas fait sous ce quinquennat.
Il a augmenté le budget de la justice pour l'année prochaine. Ça tombe bien, il ne sera plus président, donc ce n'est pas lui qui paiera. Ce sera des chèques en bois, vous savez.
Vous savez déjà qui sera président ?
Il ne sera pas président, en tout cas. Lui ne sera pas, en tout cas, rien n'est garanti pour qu'il le soit. Et donc, tout ça, c'est du paiement à crédit. Moi, je juge sur des faits. Or, on voit bien que ce qu'il n'a fait jusqu'ici, c'est qu'il a laissé faire. Au fond, c'est Emmanuel Macron, évidemment, qui est à la tête du pays, qui est en cause, en responsabilité. Mais on voit bien que ça vient de très loin, avec une sorte de laisser-aller général, sur le mode, écoutez, on verra. Non, on reprend la main, on fait effectuer les peines. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes condamné à une peine d'intérêt général, un travaux d'intérêt général, eh bien, 20% des TIG ne sont pas effectués, 80% des TIG sont effectués plus de 400 jours après la commission des peines, ce qui signifie que, par exemple, pour un mineur, enfin pour un jeune homme de 18 ans, il ne le fera qu'à l'âge de 20 ans. Soyons clairs, il faut qu'il y ait à la fois une punition rapide, proportionnée. Il faut aussi qu'on ait une attitude très claire vis-à-vis des étrangers en situation régulière ou irrégulière qui sont condamnés. Un étranger en situation régulière ou irrégulière qui est condamné retourne dans son pays d'origine effectuer la peine.
Voilà,
pas après
avoir effectué sa peine.
Mais non, avant, bien avant, entendu. Mais la prison est beaucoup plus confortable au Maroc qu'en Algérie. Vous savez, l'air y est plus pur.
Oui, mais donc c'est beaucoup mieux. Les victimes veulent être assurées que l'agresseur a fait sa peine et qu'elle l'ait bien fait. En France, on ne sait pas ce qu'il advient des agresseurs une fois qu'ils ont été expulsés.
Eh bien, écoutez, moi, je préfère qu'ils soient expulsés. Vous verrez, ça aura un effet, comment dirais-je, de prévention beaucoup plus fort.
Dissuasif.
Mais bien entendu, il n'y a pas de raison que la France garde sur son territoire, paye avec l'argent de ses impôts, des gens qui mettent le chaos chez elle.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Philippe Juvin. Dans ce grand oral de Punchline, on reviendra sur vos propositions concernant l'immigration. Vous venez d'en dévoiler une partie. Et puis on parlera aussi de sécurité routière. Faut-il supprimer le permis à points ? À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Avec notre invité ce soir, Philippe Juvin, dans le grand oral de Punchline, on est avec lui à Haushalter de Marianne. En matière d'immigration, quelle est la différence de ce que vous proposez par rapport à ce que propose Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ? Est-ce que vous avez une version plus dure de ce qu'il propose, moins dure, plus humaniste ? Est-ce qu'il faut faire attention, encore une fois, à des quotas ? Vous voulez un référendum, un moratoire ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Non, mais d'abord, l'immigration n'est pas un droit. L'immigration, tout État a le droit de réguler son immigration. Et c'est ce qui se passera. Donc on fixera des quotas.
Pour l'immigration légale.
Pour l'immigration légale, bien entendu. Deuxièmement, le vrai problème de l'immigration, on le sait aujourd'hui, c'est le droit d'asile qui est dévoyé. Quand vous mettez le pied sur le territoire national, que vous demandez le droit d'asile, en fait, que vous l'ayez ou pas, vous savez que vous ne repartirez pas. Donc il faut en tirer les conséquences avec une première leçon. Et la première de ces leçons, c'est de faire en sorte que la réponse à la question posée par le droit d'asile doit avoir lieu rapidement. Pourquoi ? Parce que si vous mettez 6 mois ou 1 an pour donner une réponse au droit d'asile, que se passe-t-il ? Les gens ont commencé à faire leur vie et ne repartent pas. Donc, nous devons faire en sorte que le droit d'asile ait été demandé avant l'arrivée sur le territoire national, les fameux hotspots. Nous avons un riche tissu consulaire partout dans le monde, au moins qui serve à ça, qu'on puisse faire les demandes dans ces tissus consulaires, ainsi que les tissus consulaires de l'Union, et interdire, évidemment, de rester sur le territoire une fois qu'on a été débouté.
Mais souvent, il y a des recours. Hein. C'est le cas de ce Bangladais qui a été arrêté la semaine dernière en brandissant 2 couteaux, qui était débouté du droit d'asile, en appel, donc toujours sur le territoire français.
Et donc, je trouve évidemment tout à fait anormal que le recours soit suspensif quand, en plus, vous faites preuve d'agressivité avec ces couteaux.
Il a été relaxé, d'ailleurs, de menace de mort.
Enfin, honnêtement, on est devenu fou. Il suffit désormais que quelqu'un veuille rester sur le territoire national et quelle que soit la volonté du pays, en l'occurrence la France, c'est toujours l'immigré qui a raison. Ce n'est pas possible. La France doit choisir qui reste sur son territoire.
Donc moi, j'expulserai,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des délits ou des crimes, bien entendu, au début de leur peine, pour qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine. Au moins, les choses seront claires. Deuxièmement, tous les déboutés du droit d'asile repartent. L'aide médicale d'État doit être vue. On voit très bien, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a montré que probablement 25% des demandes d'AME au minimum sont des demandes qui sont en réalité fictives, qui ont été faites alors même que les individus n'étaient pas sur le territoire national. 25%. On est sur des sommes absolument folles. Et enfin, il y a une pompe aspirante, qui est la pompe aspirante sociale, qui fait qu'en fait, on a toujours intérêt à venir en France parce qu'en fait, il y a toujours un avantage financier. Ça, il faut mettre fin à la pompe aspirante. Je souhaite, et c'est compatible avec le droit de l'Union, il faut bien le dire, l'Allemagne l'a observé il y a maintenant 6 ou 7 ans à travers une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, réserver aux citoyens de l'Union européenne des allocations familiales ou l'aide au logement, par exemple.
Conditionner un temps sur le 5 ans passé sur le sol français ?
Éventuellement, ça peut se discuter, mais le principe, c'est que c'est réservé aux citoyens de l'Union européenne.
Louis Haussalter.
Vous parlez de quotas, vous n'êtes pas le seul à droite à parler de quotas, et ça fait longtemps que la droite nous parle des quotas d'immigration. Mais quand quelqu'un qui est expulsé fait un recours devant la justice, si la justice lui donne raison, il restera en France, quel que soit ce que vous avez inscrit dans la loi, quel que soit le quota, parce que le juge ne fait qu'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'impose directement en droit français. Et d'ailleurs, en ça, le juge ne fait que faire son travail. Donc, inscrire un quota dans la loi ne sert quasiment à rien en la matière. Comment est-ce que vous faites pour surmonter ça ?
Il y a deux choses, je crois. Premièrement, quand on est en situation irrégulière et qu'on est reconnu comme étant en situation régulière, mais qu'il y a effectivement un recours, on peut rester sur le territoire, mais d'une manière fermée. C'est-à-dire qu'il faut des centres fermés pour que les gens n'aillent pas se balader. Si vous avez des centres ouverts, en fait, vous perdez de vue les gens et on voit très bien que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, des centres fermés. Deuxième point, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, pose problème sur certains articles, en particulier l'article 8 de la CEDH qui parle d'immigration, de regroupement familial.
La vie privée.
Exactement. Mais quand vous lisez l'article 8, il ne pose pas problème parce qu'il donne priorité à la loi. Il dit « selon les modalités fixées par la loi ». Or, ce qui pose problème, c'est la jurisprudence qui en a été faite, l'interprétation.
C'est l'interprétation qu'en font les juges. Exactement. Mais comment vous changez ça ?
Eh bien, dans ces cas-là, il faut demander. Il y a d'autres pays qui sont dans cet état d'esprit. Nous, plusieurs pays se plaignent de cette interprétation jusqu'au boutiste des juges de la CEDH. Eh bien, il faut décider que nous sortons de la CEDH tant qu'au moins l'article 8 n'a pas été réécrit et réaffirmé dans sa pureté dénoncer initiale.
La convention.
Bien sûr. Et je précise pour ceux qui nous écoutent que quand on parle de CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, on ne parle pas d'Union européenne. La CEDH n'est pas une institution.
Vous avez raison, mais elle est reconnue dans les traités européens. Il y a
bien
un
entendu.
Texte qui reconnaît la CEDH dans les traités européens. Donc ce n'est pas la même instance, mais les deux sont liés quand même.
Je veux dire par là que si vous sortez de la CEDH, ce que je souhaite tant que l'article 8 n'est pas réécrit et réaffirmé, vous ne sortez pas de l'Union européenne. C'est un point extrêmement important parce que parfois les esprits confondent les choses.
Même chose pour la Cour de justice européenne ?
Non. Alors là, pour le coup, je pense que la Cour de justice de l'Union européenne, enfin je pense, c'est une institution de l'Union européenne. Et je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux avec la Cour de justice de l'Union européenne. Moi, j'ai été 10 ans député européen. Je sais ce que je dois à l'Europe et ce que la France doit à l'Europe. Je sais aussi ce qu'il faut changer. Mais je sais aussi que l'Europe, l'Union européenne, est une construction juridique. Que c'est parce que nous acceptons d'avoir un droit commun que nous sommes arrivés à créer l'Union européenne. En particulier ce qu'on appelle le marché unique. Quand je suis fabricant de lunettes en France, ces paires de lunettes, au lieu de les vendre à 67 millions de Français, je peux les vendre à 450 millions d'Européens. Pourquoi ? Parce que nous avons l'Union européenne, le marché unique et l'homogénéisation du droit. Donc mettre en cause l'homogénéisation du droit me paraît être irresponsable. Et d'ailleurs, comme vous le savez, si vous mettez en cause le droit de l'Union européenne en France, eh bien pourquoi les Polonais, les Hongrois, les Allemands, chacun pourrait dire dans le droit de l'Union, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça.
Mais c'est ce que font parfois les Allemands.
C'est la fin de l'Union européenne. Non,
pardon. Notamment contre la Banque Centrale Européenne. Si, bien sûr.
Ce que font les Allemands, c'est un peu différent. Ce que font les Allemands, c'est qu'ils pèsent dans le processus de décision européenne.
Aussi, bien sûr.
En amont, ce que nous ne faisons pas. Le vrai sujet de l'Union européenne, pardon, c'est que la France ne pèse plus dans les institutions européennes. J'ai été député européen, je peux vous dire que j'ai vu les Allemands agir, eux tiennent le machin. Et quand vous avez un député, un sénateur ou un ministre français qui viennent se plaindre d'une loi européenne, eh bien en fait il est hypocrite. Parce que toutes les lois européennes, vous m'entendez, depuis 1958, toutes ont été adoptées, toujours, par le gouvernement français en exercice.
Est-ce que vous avez compris la volte-face de Michel Barnier d'ailleurs sur les institutions européennes ?
J'avoue que je n'ai pas suivi totalement cette affaire. Moi, je pense une chose très simple, comme je vous le dis, c'est qu'on ne joue pas avec le droit de l'Union. Le droit de l'Union européenne, c'est quelque chose de très fragile, qui a des désavantages pour notre pays, mais qui a l'avantage surtout, ponctuellement, mais qui a l'avantage surtout de créer une norme commune. Le vrai sujet, c'est ce que je vous disais, c'est l'influence française, mais le deuxième vrai sujet, c'est que la France rajoute des normes à la norme
elle-même,
européenne,
voilà.
D'une manière absolument
maladie
idiote.
Française.
Déjà, ne faisons pas cela.
Allez, on fait une pause, une poignée de secondes. On vous retrouve, Philippe Juvin. Faut-il supprimer le permis à points ? Je vous pose la question dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et ce soir, c'est Philippe Juvin qui passe le grand oral de Punchline. On est avec Louis Haushalter de Marianne pour l'interroger. Faut-il supprimer, ou en tout cas revoir le permis à points, une proposition qui a fait débat ce week-end. On va écouter quelques réactions de Français. Je vous pose la parole, on vous passe la parole dans un instant.
Ça nous arrange, hein. Oui, ça nous arrange, mais aussi il faut faire attention. Après, tout le monde va conduire comme il veut. Mais il y a des conséquences après. Donc.
On prend des points pour un oui, pour un non. Pour ceux qui roulent beaucoup, c'est insupportable. Il suffit de faire un tout petit écart au-dessus d'un kilomètre heure et on prend un point. Et celui qui roule beaucoup, c'est impossible.
Bon, je pense que ça limite quand même quelque chose, le système de points. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, ce serait compliqué à mon avis.
Alors, Philippe Juvin, on supprime ce permis à points ou pas ?
Tout d'abord, quand on entre en campagne électorale, on s'aperçoit que tout le monde a l'idée géniale. Demain, il y en a un qui va dire « je supprime le permis de conduire aussi », vous voyez.
Non,
mais je plaisante un peu, quoique. Donc, faisons attention, il ne reste pas moins. Ce que je crois, c'est que le permis à points est devenu une pompe à fric.
Ok, pour le dire clairement.
Mais j'ai un exemple. Je trouve que moi, je suis né à Orléans, donc quand je vais à Orléans, sur l'autoroute, il y a une voiture, parce que j'y vais pas en train, pardon, j'y vais en voiture, excusez-moi. Et en bas d'une côte, il y a un radar, donc tout le monde freine pour pas dépasser le radar. Et puis en bas de la côte, on remet la seconde, puis la troisième, parce qu'il faut remonter la côte et on pollue la planète, évidemment. Donc, il y a plus que le permis à points, je pense que la question qui se pose, c'est l'intelligence avec laquelle sont posés les radars aux endroits les plus stratégiques. c'est la question de la limitation de vitesse. On se souvient de cette décision formidable d'Édouard Philippe il y a maintenant 3 ans.
Mmh, qui donc, a mis le feu aux poudres et provoqué les gilets jaunes.
Et qui a diminué la limitation, enfin qui a augmenté la limitation de vitesse, diminué la vitesse autorisée sur les routes d'une manière totalement homogène. C'est ça que je conteste, moi. Qui a un permis à points, ça me semble logique. La question, c'est son utilisation. Or, son utilisation n'est pas, le but n'est pas la sécurité des Français, le but c'est de rapporter de l'argent, pompe à fric, pour l'État.
Alors il y a quand même plus de 700 000 personnes qui aujourd'hui roulent en France sans permis, qui donc sont amenées parfois à faire des refus d'obtempérer face aux forces de l'ordre pour ne pas se faire contrôler. Absolument. C'est un vrai problème de sécurité publique quand même.
Alors c'est une conséquence. Maintenant, il y avait des gens qui roulaient sans permis avant même qu'il y ait le permis à point. Donc ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, mais c'est vrai que tout ça accélère les choses. Encore une fois, la question c'est l'équité. Est-ce que l'État est là pour taper avec une grosse matraque ou est-ce que l'État est là pour faciliter la vie des gens et d'une manière le plus intelligente possible? On a un peu l'impression que la fameuse phrase de Pompidou « Arrêtez d'emmerder les Français » a été oubliée. Le sujet est là, je crois qu'on ne cesse d'emmerder les Français dans tout. Sécurité routière, impôts, taxation, etc., etc. C'est ça qu'il faut arrêter. Arrêtons d'emmerder les Français.
Il y a un autre sujet qui crispe les automobilistes ou qui devrait les crisper parce que tous n'en ont pas conscience, ce sont les zones à faible émission. Mais ça devrait aussi vous toucher en tant que médecin parce que c'est censé réduire la pollution dans les métropoles. Donc, dans quelques mois, quelques années, dans la plupart des métropoles françaises, les plus vieilles voitures, et on le voit déjà beaucoup à Paris, ne pourront pas rentrer. Et plus le temps passera, moins les voitures anciennes pourront entrer et circuler dans certaines rues. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure ou qu'il faut en stopper ou en freiner l'application ?
Alors, la zone à faible émission, moi j'ai eu à l'appliquer en tant que maire, puisque je suis maire d'une
commune. Vous êtes concerné par...
d'une métropole, la métropole du Grand Paris, vise à sortir les vieilles voitures polluantes. Le problème, c'est que les vieilles voitures polluantes appartiennent souvent à des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est faible. Et donc, quand on dit aux gens qui ont peu d'argent, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, non seulement le diesel augmente, mais en plus, vous allez devoir changer votre voiture. Et en plus, votre vieille voiture, vous ne pouvez pas la vendre. Donc, je pense que là aussi, on est devenu absolument fou. Je pense que la zone à faible émission, nous y serions arrivés naturellement avec la disparition des voitures et le remplacement par des voitures modernes. C'est ça, en fait, ce à quoi nous aurions dû arriver. Maintenant, l'État a beaucoup de culot. De faire ainsi la leçon aux automobilistes, pendant que des années, il a poussé les automobilistes à acheter du diesel. Vous voyez, on est dans un État qui se fiche un peu du monde.
Alors celui qui a émis l'idée de ce permis à point supprimé, c'est Éric Zemmour, pour ne pas le citer. C'est quelque chose qui est un phénomène qui turbule du côté de la droite. Est-ce que c'est une candidature qui vous fait peur? Est-ce que s'il se présentait demain à la primaire, vous n'êtes pas sûr qu'il ne la remporterait pas, Philippe?
Non, mais d'abord, moi, rien ne me fait peur. Le débat public, c'est intéressant d'avoir des visions différentes. Maintenant, sur ce qu'il dit sur le fond, c'est ça le sujet. Quand il dit que l'école, ça ne va pas, il a raison. Quand il dit que l'immigration, ça ne va pas, il a raison. Quand il dit que la sécurité, ça ne va pas, il a raison. Moi, je fais les mêmes analyses que lui, la même analyse radicale. La vraie question derrière, c'est quelles sont les propositions qu'il fait sur l'école, par exemple, sur l'immigration, sur la sécurité. La vraie question est là. Et puis, il y a un sujet peut-être plus profond avec Éric Zemmour, quelle que soit l'intelligence de l'homme, je ne conteste absolument pas. C'est la question de la blessure. Mmh. Voyez-vous, je crois que le pays est profondément fractionné. Et c'est, un des grands points négatifs d'Emmanuel Macron. Il a fractionné le pays. Là, il fallait le rassembler. Et voyez-vous,
Fracturer ou fractionner ? Les deux.
En tout cas, nous ne faisons plus suffisamment nation. Et voyez-vous, je me dis que quand on laisse entendre à quelqu'un, parce qu'il s'appelle Karim ou Rafik, que... quand il a beau travailler, vouloir que son entreprise, son commerce prospère, il veut que ses enfants fassent des études, aient un avenir, eh bien, on puisse lui... Et il aime la France autant que je l'aime, autant que vous l'aimez, autant que nous l'aimons tous. Eh bien, l'idée de lui dire, au fond, quels que soient les efforts que vous ferez, parce que vous appelez Rafik, je ne suis pas certain que vous serez toujours français. Alors, c'est plus complexe que ça, je l'entends quand Éric Zemmour le dit, mais il y a un peu de ça, et ça, cette blessure, elle me pose un vrai problème de fond.
Oui, à Ossalter.
Mais là, vous êtes en train, chez les Républicains, d'organiser un vote pour désigner votre candidat. Donc, pendant jusqu'au 4 décembre, vous allez faire votre cuisine interne, parce que seuls les adhérents pourront voter. Pendant ce temps-là, Éric Zemmour participe au débat national. Est-ce que vous ne risquez pas pas de disparaître, mais de vous effacer encore plus du débat national, que Zemmour, lui, investit de plus en plus parce qu'il ne s'est pas soumis à une formalité telle qu'un vote interne.
Alors d'abord, ce n'est pas une cuisine, vous êtes sympathique, mais ça s'appelle un processus de vote où on échange entre les
deux. Ce n'est pas une primaire ouverte non plus.
Ce n'est pas une primaire ouverte, c'est une primaire fermée.
4 millions de participants à la primaire de 2016.
C'est une primaire fermée, ce n'est pas une cuisine.
Vous le regrettez ?
Oui, moi je le regrette, je voulais une primaire ouverte parce qu'évidemment, plus on varie dans les gens qui viennent vous juger, mieux c'est. Mais c'est ainsi. Donc on ne va pas y revenir sans arrêt. Maintenant, si vous voulez me faire dire qu'Éric Zemmour est aussi le fruit d'une certaine vacuité du débat politique général, pas seulement nous, oui, je peux le dire. Effectivement, Éric Zemmour prospère sur l'idée que les hommes et les femmes politiques proposent toujours la même chose, toujours les mêmes vieilles recettes et toujours les mêmes vieux parcours depuis toujours. Et on parlait d'un homme politique célèbre tout à l'heure hors plateau qu'on voyait à la première page d'un grand journal, je crois, qui paraît le dimanche. Et on se disait, c'est curieux, on le voyait déjà il y a 10, 20, 30 ans.
On parle de François Bayrou pour nos auditeurs.
Les gens n'en peuvent plus. Et c'est aussi pour ça que je me présente. Je me présente parce que je pense que la politique française a besoin d'hommes et de femmes qui ont des parcours qui ne sont pas les parcours habituels des hommes politiques. Moi, je suis maire depuis 20 ans, j'ai été député européen, je suis médecin, je dirige des services compliqués, j'ai résolu des crises, j'ai été militaire en Afghanistan. Eh bien, toutes ces expériences humaines me permettent de mettre sur la table des solutions que j'ai pu expérimenter, différentes de celles de ceux proposés par ceux qui étaient ministres peut-être il y a 15 ans. Donc je pense que oui, Éric Zemmour est un symptôme d'une volonté de changement.
De renouveau, c'est ça ? Il y a un besoin de renouveau dans la classe politique française.
De changement, des parcours et des solutions, sans aucun doute.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera de cette fameuse primaire qui a démarré chez les Républicains. Qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres ? Et puis, une question sur les parrainages. Tiens, où vous en êtes ? À tout de suite dans Punchline.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Philippe Juvin dans le grand oral de Punchline. Vous êtes candidat donc à cette primaire de la droite. Est-ce que vous avez les parrainages nécessaires ? On parle de 250 parrainages. Vous m'aviez dit il y a quelques jours que vous étiez inquiet, que vous aviez le sentiment qu'on avait verrouillé les élus locaux pour ne pas qu'ils vous donnent vos parrainages. Où est-ce que vous en êtes, Philippe Juvin ?
Alors, dans un marathon, le dernier kilomètre est toujours le plus difficile. Donc je suis dans la dernière ligne droite. Il faut déposer les parrainages avant le 2, c'est-à-dire dans 8 jours. Je pense que je les aurai. Mais c'est un travail de tous les instants. Vous savez, quand on a un parcours, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'est pas le parcours des autres candidats, qui sont des candidats installés dans une vie politique ancienne.
Avec des fédérations, alors
avec peut-être beaucoup de parlementaires qui les aident, parce que ce sont des gens qui ont évidemment des talents et une bonne connaissance du tissu politique, c'est forcément plus difficile. Mais je pense que je les aurai, parce que c'est aussi l'intérêt, je pense, de notre famille politique, d'avoir des portraits, des parcours, des solutions différentes.
Donc vous leur dites attention, ne verrouillez pas les parrainages qu'ils
pourraient donner. Non, je vous dis à vous, Laurence Ferrari, que j'espère bien les avoir le 2.
D'accord, mais l'espoir fait vivre. Hein.
Non, ça va. Vous savez, de toute façon, vous me dites, êtes-vous inquiet ? En général, j'essaye de ne pas l'être. Mm-hmm. Mais je ne suis jamais allé, j'en ai passé quelques-uns d'examens et de concours dans ma vie, en étant totalement décontracté. Donc je vous le dirai le 2.
Louis Absalter.
Seuls pourront voter pour désigner le candidat LR les adhérents de LR. À votre avis, combien est-ce qu'il y aura de votants à cette consultation, sachant qu'on peut encore adhérer à LR jusqu'à la mi-novembre, c'est ça ?
Jusqu'au 15 novembre. Écoutez, ça monte pas mal. Je crois qu'on a commencé à 88 000 adhérents au moment où on a lancé l'opération primaire fermée, congrès, on va probablement arriver à 110, 120 000 adhérents. Oui.
Mais au fond, du coup, le vainqueur, c'est celui qui fait rentrer le plus de cartes. C'est ça le concours des candidats de la droite ?
Alors ça, c'est peut-être une vision un tout petit peu ancienne, pardon, de la politique. Je crois que les gens sont beaucoup plus libres.
Mais qui est cher à Christian Jacob, le président du parti, qui va se retrouver à la tête d'un parti très nombreux par cette opération.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des fédérations. Nous sommes organisés par département dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, j'en suis le président, mais il y a de grosses fédérations. Les Hauts-de-Seine en sont, mais il y en a d'autres qui comptent. Et c'est vrai qu'on va regarder ces grosses fédérations. Maintenant, toute voix comptera. Et je dis à ceux et à celles qui veulent participer à la définition de qui sera le champion de la droite et du centre, de prendre leur carte aux Républicains avant le 15 novembre.
Alors, il y aura plusieurs débats qui seront organisés, 4 débats, le plus important sur CNews et Europe 1, le 21 novembre. Évidemment, un petit clin d'œil à nos auditeurs. Est-ce que vous attendez à des débats âpres ? Est-ce que vous allez échanger des arguments de fond ? Ou est-ce que vous allez vous épargner ? Est-ce qu'il y aura une espèce de modus vivendi avant qui fera que vous allez vous épargner les uns les autres ?
En fait, nous avons une double obligation en droite. Nous avons l'obligation de montrer nos différences, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Un débat où tout le monde est d'accord, ça ne s'appelle pas un débat. Donc nous montrons nos différences, et nous en avons, sur différents sujets. Vous m'avez parlé de l'Union européenne tout à l'heure, je vous ai dit en quoi je croyais qu'il fallait pas, il fallait faire très attention à ne pas fragiliser l'édifice européen juridique. Et puis, en même temps, nous devons montrer que nous serons unis. D'une certaine manière, le deuxième tour aura lieu le 4 décembre. D'une certaine manière, la date la plus importante est peut-être celle du 5 décembre, le lendemain du second tour. Puisqu'il nous faudra tirer les leçons de nos échecs d'il y a 5 ans, quand le gagnant de la primaire, en l'occurrence François Fillon, n'avait pas fait tout ce qu'il fallait pour attirer à lui les différents perdants. Je crois que le sujet sera clé le 5. Nous devons nous réunir. En tout cas, moi, je serai toujours celui qui guidera la droite vers l'Union. Si nous sommes désunis, nous perdrons. Nous pouvons gagner cette élection présidentielle parce que nous avons des solutions à mettre sur la table, mais à condition que nous soyons unis.
Oui,
je ne sais pas si vous avez regardé les débats de la primaire écologiste.
Oui.
Mais les candidats ont été assez retenus, ils ne se sont pas tapés entre eux avec une violence extrême. Est-ce que ce n'est pas une inspiration pour vous, finalement ?
Mais d'abord, moi, je crois que le débat politique peut être âpre sur l'argument et sur le fond, en étant évidemment bien élevé et non violent. Enfin,
Donc c'est une inspiration, ça peut être une inspiration, bien, pas sur le fond, évidemment.
Alors, sur le fond, non, parce que vraiment, parfois, il disait des trucs. Bref. Mais c'est vrai, vous avez raison, j'ai apprécié ces débats parce que c'était des débats. Et tout le monde s'est un peu moqué d'eux au début du mois de septembre, en disant « Ah tiens, on apprend qu'il y a une primaire des écologistes, etc. » Mais en fait, les débats avaient une certaine tenue. Et moi, j'ai été intéressé, pour être très franc, par ces débats. Donc, je crois absolument nécessaire que nous débattions entre nous, que les Français voient qu'il y a des possibilités différentes de solutions, que finalement, nous ne sommes pas enfermés dans un candidat qui est donné le gagnant. Quatre débats, ce sont... Il y a de quoi apporter de la matière grise. Ce qui manque, c'est du fond. Moi, je suis là pour donner du fond à la campagne de la droite.
Il manque pas aussi, hein, c'est pas pour vous, du tout pour vous faire un jure, mais il y a 5 ans, il y avait quand même un casting avec un ancien président de la République, 2 anciens premiers ministres. On va pas du tout retrouver casting cette année. Est-ce que la droite n'en souffre pas ?
Vous avez raison, évidemment. Je suis tout à fait humble dans ce que nous sommes et dans ce que je suis en particulier. Mais pardon, ça ne nous a pas beaucoup réussi. Donc, je crois que les Français, encore une fois, sont attentifs à la nouveauté et cherchent une alternative à une vie politique qui se répète depuis 20 ans, où on a, toujours les mêmes...
Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier, ils les connaissent, les Français. Ils n'auront pas l'argument de la nouveauté pour eux.
Eh bien, peut-être seront-ils intéressés par voir des candidats.
Alors, sur la question de la santé, évidemment, vous avez beaucoup de propositions légitimes à faire, étant donné que vous êtes chef du service des urgences de Pompidou. Vous voulez mettre fin aux déserts médicaux. Et vous avez une proposition qui est très intéressante, je voudrais que vous la développiez, c'est que tous les étudiants qui sortent de médecine consacre un an ou deux à aller dans les déserts médicaux. Comment vous allez les forcer à faire ça ?
Absolument. En fait, il y a 3 ans, vous ne le savez probablement pas, parce que on n'a pas fait une publicité, tous les médecins qui finissent leurs études de médecine à l'issue de leur internat spécialiste doivent faire un an supplémentaire qu'on appelle de docteur junior pour parfaire leur formation dans les hôpitaux. Eh bien, moi, ma proposition est très simple. Je demanderai à tous les étudiants en médecine qui finissent leurs études, donc qui sont médecins généralistes, parce que cette affaire de docteur junior ne s'applique pas actuellement aux généralistes, j'appliquerai un an de docteur junior à tous les généralistes, et tous les généralistes de France et de Navarre devront un an qu'ils feront dans les zones qui sont dépeuplées en médecins. Et je vais vous donner un ordre de grandeur. Il y a 1800 maisons médicales en France. Il y a 3600 généralistes qui sortent chaque année de la faculté. Et bien, ça fait une moyenne de 2 généralistes qui seront affectés par maison médicale tous les ans en plus. Au bout d'un an, ils finiront leur année de docteur junior, comme leurs confrères spécialistes dans les hôpitaux, et ils iront s'installer où ils veulent. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un an, un certain nombre auront fait leur vie, seront tombés amoureux à l'endroit où ils travaillent, auront considéré que leur travail est intéressant et resteront dans la dite maison médicale. Un an plus tard, vous aurez en plus 2 nouveaux qui arriveront, etc. Moi, je mettrai
fin. Comment vous attribuez les zones géographiques ?
Eh bien, je commencerai.
C'est arbitraire ?
Non, pas du tout. Je commencerai la première année à prendre toutes les maisons médicales qui sont recensées par les agences régionales de santé, 1800, et à ces 1800, j'ajouterai 2 médecins généralistes en formation, quel que soit l'endroit de France et de Navarre. Parallèlement, comme j'augmente considérablement le nombre de médecins en formation, vous aurez un peu plus tard,
combien,
plus de 3000. Ce que je crois, c'est qu'il faut probablement doubler.
Doubler
le nombre de médecins en formation. Pourquoi ? D'abord parce que dans 20 ans, il y a des spécialités qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront demain, dont on n'a même pas idée. Deuxièmement, la population augmente. Troisièmement, la population vieillit. Quatrièmement, la population est plus malade. Et cinquièmement, les jeunes médecins veulent moins travailler que les vieux médecins. Eh bien, tout ça, je vous le dis, si nous ne doublons pas le nombre de médecins, en fait, on n'y arrivera pas. Et ça serait quand même assez fou que nous sortions de cette épidémie dingue du Covid sans avoir remis sur la table une grande réforme du système de santé.
Justement, le Covid, vous avez beaucoup critiqué la gestion de la crise sanitaire. Sauf que là, Emmanuel Macron a une popularité qui n'est pas du tout honteuse pour un président de la République à ce moment de son mandat. Et son incitation, pour ne pas dire sa contrainte, à aller se faire vacciner cet été a plutôt fonctionné. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, les Français se disent « il ne s'en est pas trop mal sorti, ce président, compte tenu de ce qui lui est tombé dessus ?»
D'abord, vous savez, moi j'ai toujours été, je crois, raisonnable dans mes commentaires. Et quand le président de la République prenait des décisions qui me semblaient bonnes, je disais qu'elles étaient bonnes. En particulier, j'ai soutenu le pass sanitaire à l'époque du mois de juillet. Je crois simplement qu'il est faux de dire qu'on s'en est bien sorti, ce n'est pas vrai. Durant l'épidémie, nous avons manqué de tout, de tests, de masques. Et je racontais même chez vos confrères cette histoire terrible, même de housses mortuaires. Moi, je me souviens d'un soir où je suis allé chercher des housses mortuaires pour les apporter à une collègue dans une clinique qui en était dépourvue. Donc c'est vous dire qu'on a manqué de tout. Que le gouvernement veuille raconter une petite histoire en disant finalement on s'en est bien sorti, je le vois, effectivement, je ne suis pas dupe. Mais c'est faux. L'Allemagne, qui a plus d'habitants que nous, a moins de morts que nous. Alors, je veux qu'on m'explique pourquoi eux s'en sont mieux sortis. Nous, nous en sommes mal sortis. Et ce qu'on a fait de bien, je peux vous assurer, ce n'est pas grâce au gouvernement. C'est parce que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les professionnels de santé ont pris sur eux et
se sont débrouillés. Oui, mais l'impréparation dont vous parlez n'était peut-être pas due non plus uniquement au gouvernement. C'est peut-être aussi les gouvernements précédents qui avaient mal préparé la crise. D'ailleurs, des enquêtes l'ont montré.
Vous avez raison, bien entendu. Et je ne jetterai pas que la pierre au gouvernement actuel. Simplement, le gouvernement actuel, pardon, prenez l'exemple de la campagne de vaccination qui a été un fiasco pendant plusieurs mois. Souvenez-vous, les premiers mois du mois de janvier, c'était absolument fou. Il y a de l'impréparation qui date d'il y a longtemps, mais il y a eu une mauvaise gestion de la crise. D'ailleurs, moi j'ai deux propositions à faire. La première, c'est que si je suis élu président de la République, je mettrai fin immédiatement à l'état d'urgence sanitaire. On n'a pas besoin d'un état d'urgence qui est un mode juridique de contrainte pour lutter contre une épidémie. Les Allemands n'ont pas de contraintes de ce type. Ils ont un débat vigoureux et pourtant ils ont mieux lutté.
Vous êtes contre sa prolongation jusqu'à l'été ?
Absolument. Et deuxième point, je créerai un grand ministère, non pas de la santé, mais un ministère des santé. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ça doit être une leçon absolue de cette épidémie, c'est que la santé, ce n'est pas simplement l'hôpital, la médecine de ville ou les EHPAD, mais c'est aussi l'air que vous respirez, l'alimentation que vous mangez, la santé animale, le bien-être au travail. Tout cela, ça fait la santé. Et nous n'avons qu'une vision de santé qui est liée à l'hôpital, qui mérite d'être sauvée, parce que l'hôpital public est en très très mauvais état encore aujourd'hui. Mais cette vision de la santé, elle doit être globale. Je suis pour un ministère de la santé globale.
Est-ce que vous avez trouvé normal que le secret médical soit levé dans les établissements scolaires concernant les enfants et leur statut vaccinal ?
Non, je crois que le secret médical, c'est un secret absolu qui a été institué dans l'intérêt des patients, article 2 du code de déontologie, et je pense que rien ne doit passer au-dessus du secret médical. Mais je vois que le gouvernement a un petit problème avec les secrets professionnels, puisque même dans la loi sur la justice qui est en cours de discussion, le secret professionnel est mis à mal, secret professionnel détenu par l'avocat. Attention à ces gouvernements qui croient que l'État sait tout faire. Non, l'État ne sait pas tout faire, l'État n'a pas la solution à tout. Et une des manières de se protéger de l'État tout-puissant qui veut empiéter sur nos droits, c'est de préserver tous ces secrets qui sont des secrets professionnels.
Merci beaucoup, Philippe Juvin, d'être venu ce matin, ce soir plutôt.
Dans, nous pouvons rester jusqu'au matin.
On peut rester jusqu'au matin, mais voilà. C'était en tout cas voilà, le grand oral de Punchline. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Louis Hostalter et aux miennes. Merci à vous. Bonne chance pour la compétition. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.